Salut tout le monde, vous écoutez le hors-série numéro 2 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Salut Adrien.
Salut Mathieu, ça va ?
Ouais, ça va, on est dans des loges, dans la BNF.
Ouais.
Il y a peut-être des travaux, il y a des beaux travaux, excusez-nous.
Ouais, on essaiera de tout nettoyer en post-prod.
C'est pas de notre faute.
Alors, dans ce hors-série, nous allons parler d'écrire pour la VR, la réalité virtuelle. Pourquoi un hors-série pour cela, me direz-vous ? Eh bien, la réponse est toute simple, nous enregistrons à l'initiative du festival Paris Courdevant qui nous a gentiment invités à venir rencontrer des auteurs de courts-métrages VR qui étaient ce matin face à un jury de producteurs pour pitcher leur projet.
Mm-hmm. Avant d'accueillir nos nombreux invités, saluons Mathieu Gaillet, animateur du podcast culturel Happy Hour, confrère, et du blog Virtuality dédié aux industries immersives.
Salut tout à
Mathieu.
Fait.
Salut Mathieu.
Bonjour, bonjour.
C'est bien, c'est tout ça.
Mais c'est formidable, podcast, on fait des podcasts aussi, on se suit de loin depuis longtemps.
De loin de près.
Et effectivement, avec Virtuality, on a une vocation maintenant à propager l'information sur les industries immersives. Et c'est pour ça qu'on est très content que Paris Courdevant, depuis plusieurs années, anime aussi un peu tous ces projets émergents.
Avant que tu nous parles un peu plus de la VR, on va accueillir Antoine Cupiel.
Salut.
Salut Antoine.
Salut Antoine. On t'a déjà reçu, Antoine.
Exactement.
Dans notre podcast. Exactement.
Alors Antoine, tu as participé à la sélection, tu as sélectionné les projets dont on va recevoir les auteurs tout à l'heure.
Ouais, c'est ça.
Entre autres.
Effectivement, je m'occupe avec toute une partie de l'équipe du festival de la partie nouveaux écrans. Donc ça consiste à s'occuper à la fois des projets VR, de la websérie, des projections, etc. Donc on a lancé un appel à projet dans le cadre d'un partenariat notamment avec le Film Fund Belgique. Et donc on se retrouvait avec un concours de projets qui était bien doté aussi puisqu'il y a un apport en coproduction de 150 000 euros. Et donc on a reçu pas mal de projets sur de la VR, de formes et de sujets, de genres totalement différents. Et voilà, donc il a fallu déjà qu'on lise tout ça, qu'on se prenne la tête à plusieurs pour savoir après quelles étaient les dernières sélections. Et toujours en prenant en considération évidemment les critères qui permettent de juger de la VR, c'est-à-dire notamment le point de vue, le principe immersif, la prise en considération des actions simultanées éventuellement, si il y a un projet qui a un vrai concept même vraiment adapté à la VR, certains l'ont fait. Voilà, donc c'est une façon un peu de juger les projets un peu différentes, et puis après évidemment on espère que les gens qui viennent pitcher notamment ce matin vont arriver à trouver bien sûr aussi peut-être aussi des producteurs, etc.
Vous avez reçu combien de projets au total ?
Écoute, sur les projets vraiment VR, on doit avoir une soixantaine de projets, je crois. Un peu plus, voilà. Je pourrais pas te dire exactement parce que j'ai pas... Voilà, on avait plusieurs à lire.
Ouais, ouais.
Le principe de Courdevant, en fait, c'est que quelles que soient les sélections, il y a toujours un paquet de lecteurs et que chaque projet est lu au minimum au premier tour par plusieurs lecteurs. Donc, voilà, on est assuré que le projet ait été bien lu.
Après, il y a débat entre lecteurs pour choisir les projets.
Effectivement, après, il y a plusieurs tours. Et alors, bon, on passe notamment avec une plateforme qui nous permet de noter tous les projets, de laisser des appréciations. Donc tous les critères sont notés, on laisse une appréciation, un texte, un avis sur les projets, on rassemble tout ça et on fait des différents tours pour écrémer les choix, comme ça.
Ah, je pensais que vous faisiez une réunion en réalité virtuelle où chacun son
alors,
casque.
Ça aurait été chouette, ça aurait été chouette. Mais...
L'année prochaine.
Peut-être.
On remarque que Paris Courdevant accompagne de plus en plus les auteurs VR. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix stratégique peut-être du festival de soutenir cette technologie et les auteurs qui écrivent pour ce format?
Le festival suit de toute manière les mêmes tendances. Donc on voit bien que l'émergence de la VR passionne et intéresse beaucoup de professionnels et que c'est un secteur qui est actuellement en émergence. Donc il est normal pour nous de réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire autour de la VR. D'une part pour servir le rôle du festival qui est de montrer des objets VR, de montrer des œuvres en VR, mais d'autre part aussi pour accompagner des auteurs puisque le festival a toujours été tourné vers les appels à projets, les lectures de projets, les accompagnements, le script doctoring, les ateliers d'écriture. Donc on cherche simplement à faire ce qu'on faisait avant sur d'autres choses, le court-métrage, la web-série, sur la VR.
Très bien. Non, c'est, super, c'est clair.
Super. Ben, merci Antoine.
Bien, merci. À très bientôt.
À très bientôt.
Et, bon festival aussi.
Un retour à Mathieu Gaillet, notre spécialiste de la VR du jour. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la VR ? Nous faire un petit historique, nous parler de ces enjeux, de cette technologie.
J'ai toujours pas rien compris à cette histoire. Moi.
C'est très ambitieux comme question.
Je connais l'Oculus Rift.
Vous avez combien de temps devant vous actuellement ?
On a 17 secondes.
Ah, c'est vrai que oui, Oculus Rift, c'est un nom qui est un peu sur toutes les lèvres. La réalité virtuelle, c'est un mot très à la mode, en tout cas dans les milieux, on va dire, chez les producteurs de cinéma et les grands événements comme Cannes, Venise et tout. Et tout le monde a ouvert un peu une section pour diffuser et projeter des films, présenter des films en réalité virtuelle au public. La date clé, un peu, c'était il y a 3 ans, en 2014, quand Facebook a racheté justement cette société, Oculus. Tout le monde a commencé à se bouger en disant mais il se passe un truc, mais de quoi s'agit-il ? Qui sont ces gens ? Que font-ils ? En fait, la réalité virtuelle, c'est pas du tout récent. La technologie en soi de vouloir immerger le spectateur dans un univers et le placer au milieu de l'univers et pas seulement devant cet écran comme un écran de cinéma, mais plutôt de le mettre au milieu. Ce sont des technologies qui sont étudiées depuis les années 50. Si vous faites des recherches sur Google, vous trouverez des jolies images de machines infernales dignes de science-fiction qui permettaient de placer les gens réellement au milieu des histoires. C'était plus de l'arcade, c'était plus des choses un petit peu expérimentales. C'est vrai que les technologies ont beaucoup évolué. Maintenant, on a tous des smartphones dans la poche, on fait des podcasts avec des micros, alors qu'avant, il fallait des camions entiers de matériel. La réalité virtuelle, c'est le même processus. C'est-à-dire, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, on a vraiment des casques et des matériels qui sont un petit peu plus accessibles et qui permettent aussi d'aller peut-être chercher un peu plus le public. Et les histoires derrière, et on est un peu là pour ça aujourd'hui, c'est que les façons de raconter des histoires et d'immerger les spectateurs, du coup, se libèrent un peu puisqu'on a des facilités matérielles à tourner. Donc les caméras pour réaliser ces films et ces expériences virtuelles sont de plus en plus faciles et accessibles. Et puis les casques pour les diffuser, les lieux où diffuser ces projets sont de plus en plus, dans le monde entier, il y a des salles qui s'ouvrent de plus en plus, et les casques qu'on connaît tous, donc Oculus Rift, PlayStation VR, Samsung, Google, etc., toutes les grandes entreprises mettent sur le marché des casques qu'on peut acheter pour Noël. Voilà. Et d'ailleurs, la grande évolution de l'année, c'est que maintenant, les casques sont de plus en plus sans fil et sont à des coûts de plus en plus accessibles. Donc, la réalité virtuelle se démocratise. Et ça fait vraiment 3 ans qu'on voit un grand élan et avec sa petite sœur qui est la réalité augmentée, ce sont des technologies qui vont permettre d'aller vers le public et de raconter des histoires de façon différente.
Pour les histoires justement, c'est quoi les caractéristiques des films en VR ?
La grosse différence, pour les gens qui n'ont jamais testé la réalité virtuelle, alors il y a des petites complications techniques, parce qu'effectivement, autant avant, on avait sa télévision, on pouvait appuyer sur un bouton et puis voir n'importe quel film, documentaire, que le film fasse 2 heures, 6 heures, 1 minute, ça, peu importe. Aujourd'hui, on a des casques qui nous permettent d'être au milieu de l'histoire. Donc, en termes de production et d'écriture, on va essayer de tout réimaginer. Et ça oblige les gens, les auteurs et les acteurs et les producteurs à tout repenser. Comment interagir avec ce spectateur qui est désormais au centre de l'histoire, qui a une vision en 360. Donc l'idée, c'est qu'on peut regarder où on veut. Et par rapport à un écran où on était globalement fixe dans le regard et qu'on suivait l'histoire, que ce soit au cinéma ou à la télévision, chez soi. Aujourd'hui, on a une liberté de tout regarder, de tout essayer de comprendre. Et donc je vous passe les difficultés de production pour aller tout créer. Et en termes de tournage aussi, pour ne pas avoir l'équipe dans le cadre, mais de se dire, on place une caméra dans un décor et tout le décor est filmé. Donc il faut que l'équipe de production se déplace à l'autre bout de la ville pour pas empiéter sur ce qui se passe. Et puis on a cette capacité à avoir avec le visuel, à créer des environnements. On parle d'environnement, d'expérience et plus forcément de film. Et ensuite, comment on fait, on interagit, ou en tout cas on emmène le spectateur dans cette expérience, qu'est-ce qu'on peut raconter en 360, avec l'image, avec le son aussi, avec des effets plus ou moins 3D, donc il y a différentes ambitions de vouloir créer de l'interaction, créer de la dimension dans le récit, et toute la difficulté vraiment de la réalité virtuelle, ça va être aujourd'hui d'animer entre guillemets tous ces environnements. Comment ne pas ennuyer le spectateur qui est au cœur de l'histoire, qui vit une histoire à la première personne, et je pense que c'est ça là, vraiment l'intérêt, c'est de changer de perspective et d'aller emmener les gens qui vont expérimenter votre projet, de les emmener dans votre histoire.
C'est ça. Surtout, comment ne pas l'ennuyer quand il est simplement voyeur de la situation.
Voilà. Alors, sur les projets un peu plus interactifs, et on passe évidemment le domaine du jeu vidéo qui est, on va dire, complètement acquis à ça, parce que si vous êtes un peu gamer, aujourd'hui, se placer à la place du héros et faire un shoot'em up ou une course de voiture dans la voiture et plus forcément devant l'écran,
ouais.
Forcément, c'est tout de suite beaucoup plus excitant. Donc, le jeu vidéo, il n'y a pas de problème. Sur la fiction, le documentaire, etc., on a deux options. C'est soit le spectateur est, entre guillemets, silencieux et n'a rien à faire et on regarde, et c'est très sympathique. Mais après, pourquoi ne pas le faire en version, je veux dire, à plat pour un écran? Après, il y a des expériences tout à fait fascinantes où on ne fait rien et on regarde juste, et ça peut être très intéressant d'être dans l'histoire et pas devant.
Parce que peut-être visuellement aussi, ça accroche.
Voilà, visuellement. Alors, sachant que, évidemment, comme je disais tout à l'heure, les technologies évoluent, c'est de plus en plus HD. Donc aujourd'hui, on filme en 8K et on pourra peut-être diffuser demain en 4K, en 8K. Ça arrive en ce moment. Mais pour le spectateur, je pense que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais en tout cas, les images sont de plus en plus belles. Et après, on a le côté interactif. Et le côté interactif, je pense que c'est là où, en termes d'écriture, ça freine un peu parce que on se pose des questions, on veut pas tomber dans le jeu vidéo. Et pour autant, on a cette capacité avec la réalité virtuelle de pouvoir faire interagir le spectateur et l'histoire. Donc après, je vous passe les scénaristes qui vont essayer de se creuser les méninges pour trouver des astuces de, il peut déplacer un meuble dans le monde virtuel, il peut ouvrir une porte, il peut se promener où il veut. On peut imaginer, surtout qu'aujourd'hui la réalité virtuelle a deux possibilités, c'est soit chez soi, dans son canapé, et physiquement on ne bouge pas, ou on l'emmène dans un lieu on location, dans un lieu que ce soit une salle d'arcade, on parle d'arcade vert comme on parlait d'arcade jeux vidéo dans les années 80, qu'on est un peu à ce stade-là de la technologie. Et dans les salles d'arcade, là, ouvre à Paris en ce moment des espaces où on peut mettre un casque et déambuler dans un labyrinthe pour faire un laser game ou quelque chose comme ça, mais avec un environnement virtuel totalement recréé.
Et là, on a la notion du mouvement, du coup.
Et là, on a la notion du mouvement. On se rapproche quand même un petit peu d'univers très lié aux jeux vidéo, mais on peut imaginer demain mettre dans une pièce quelqu'un avec un casque de réalité virtuelle et interagir avec des objets physiques. C'est le cas notamment du projet Alice de François Klein qui participe à ce podcast tout à l'heure. C'est assez fascinant de voir qu'on va créer une histoire et qu'on va penser à un moment au fait que le spectateur va pouvoir interagir physiquement avec ce que vous avez pensé. Et ça, c'est la possibilité de la réalité virtuelle, c'est de créer le spectateur acteur qui, du coup, et du coup, ça pose de nombreuses questions. Ça pose des questions de jusqu'où on va dans l'interaction et jusqu'où on peut imaginer en tant que auteur, scénariste ou producteur, aussi bien les technologies qu'on va utiliser, parce que là, je vous passe l'éventail de possibilités technologiques et qu'il faut limite être scénariste ingénieur. On créera de nouveaux métiers, mais il faut vraiment envisager ça, l'évolution des technologies et l'essor créatif qu'il y a derrière la réalité virtuelle.
Ça a l'air passionnant tout ça. On va en parler avec nos invités qu'on va accueillir.
Et bien avant de recevoir nos invités, bien écoutez, nous souhaitons la bienvenue à Ondine Perrier qui nous a proposé de venir au Festival Paris Cours de Vent pour faire un podcast sur la VR. Bonjour Ondine.
Bonjour Adrien et Mathieu.
Salut.
Alors dis-nous tout, qu'est-ce qu'on fait là?
Pourquoi on est là?
Pourquoi il n'y a plus de papier et t'as cours devant? Et bien alors donc déjà pour rappeler que Paris Cours devant est un festival international de courts-métrages qui s'intéresse à tous les formats de cours, notamment à la réalité virtuelle, et ce depuis 2 ans puisqu'un concours de scénario a été initié depuis 2015. Et ce matin, une séance de pitch avec 9 projets sélectionnés vient de se terminer. Et à l'issue de cette séance, Adrien et Mathieu vont interviewer, pour notre grand bonheur, les auteurs de 3 projets, puisqu'il n'y a plus de papier, s'intéressent à l'écriture de tous les formats de films également. Merci beaucoup à tous les deux pour cette collaboration.
Bah attends, le podcast n'est pas encore fait, hein, ça se trouve ça...
on va t'embaucher hein, pour la...
ça se trouve ça va être nul. Hein.
Ça va être merveilleux, il faut être optimiste les gars. Voilà, donc bonne interview et puis à très vite.
Merci Ondine.
Merci Ondine. Nous sommes désormais en présence de beaucoup de gens. Salut Quoi? Beaucoup de gens.
Salut.
Alors, nos chers invités, bienvenue. Nous allons faire un petit tour de table pour que chacun se présente en quelques mots, ainsi que brièvement le projet qui l'a amené à Paris Cours de Vent. Qui se dévoue pour commencer?
Bon, on va commencer. Alors moi, je suis François Klein. Je suis producteur de films VR. J'ai écrit aussi un livre sur la réalité virtuelle qui s'appelle « Réaliser son premier film en réalité virtuelle » qui est destiné aux auteurs et aux réalisateurs souhaitant se mettre sur ce nouveau format et souhaitant comprendre comment il fonctionne.
Super.
Et je suis ici accompagné de Gaël Moore, qui est la réalisatrice du projet The Android que l'on a pitché ensemble ce matin.
Bonjour.
Salut Gaëlle.
Salut. Je suis aussi donc co-auteur de The Android avec LP Lee, qui s'appelle Laura. Je suis productrice et réalisatrice de cinéma traditionnel.
Alors, quel est ce projet ?
C'est le système Android ou...
C'est ça, c'est Google qui vous envoie ?
Oui, c'est ça, mission secrète, qui vient de... Donc, plus être secrète. Pour pas tout à fait vous refaire le pitch, quand même.
Très bonne idée.
Le logline, on l'a écrit en anglais. En fait, on a tout écrit en anglais. Et notre logline, c'est « A wedding is only as good as its killer robots ».
Il faudra que tu traduises parce que donc, tout le monde n'est pas anglophone, sur il n'y a plus de papier.
Ce qui veut dire, en fait, un mariage n'est que aussi bon que ses androïdes.
Un mariage est parfait tant qu'il y a un androïde tueur.
Ah. D'accord, ça a l'air très intéressant.
Ça y est, j'ai envie de le voir.
Donc en fait, c'est une histoire qui est assez simple, mais construite de façon complexe à travers 8 personnages qui va découvrir des thèmes d'individualité, de développement personnel et puis de harcèlement, des thèmes qui sont d'actualité. Harcèlement. Ah oui, de harcèlement. En anglais, c'est harassment. Bon, bref, de harcèlement. Donc tout ça entre des humains et des androïdes. Et on explore aussi la prise de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire être conscient et être un être à part entière?
Ok, juste pour que les auditeurs se rendent compte, ton spectateur, votre spectateur, il est quoi? Il est acteur, vous voyeur? Quel est le point de vue que vous avez choisi pour ça?
Il est surtout témoin, puisque l'histoire se déroule au cours d'un mariage chinois, donc en Chine. Donc le spectateur peut se considérer comme un des convives du mariage, et il est témoin des différents événements qui se passent à travers le point de vue des 8 différents personnages. Alors, ce n'est pas du point de vue subjectif, donc il n'incarne personne d'autre que lui-même, en fin de compte, c'est plus un point de vue objectif. Et il suit la trame narrative de ces 8 différents personnages qui interagissent, qui ont un rôle, en tout cas, à jouer sur l'histoire de manière plus ou moins importante. Et chaque parcours individuel qu'il fait au cours de l'histoire lui permet d'avoir un point de vue, une compréhension complémentaire de l'histoire, pour en saisir tous les tenants et les aboutissants. C'est bien ça, hein?
C'est exactement ça.
C'est bien. Super. Si elle approuve, c'est que tu l'as bien résumé. Nous avons ensuite...
Moi, je suis Fanny Iliatar, et je suis ici avec Jérémy Trouille, qui est co-réalisateur d'un film qu'on est venu présenter ce matin, qui s'appelle Gravité. Et c'est l'histoire dans un quartier HLM, en banlieue d'une grande ville. Depuis un mois, il y a des vagues d'apesanteurs qui touchent le quartier tous les jours. À chaque fois, à un endroit et à un moment différent, pendant quelques minutes, la gravité s'annule et tout s'envole et malheureusement retombe brutalement au sol, ce qui cause pas mal de dégâts.
Et du coup, notre film, qui dure à peu près 15 minutes, propose aux spectateurs d'adopter le point de vue de 3 habitants de cette cité qui sont restés dans cette cité alors qu'elle subit ces vagues d'apesanteur. Il y a une petite fille, une femme d'une 60aine d'années et un chien. Et chacun vit sous ses contraintes et y répond à sa manière.
Pareil, même question, est-ce que le spectateur est acteur aussi dans votre dispositif?
Oui, c'est, en fait on incarne complètement les 3 points de vue. On est à chaque fois le personnage, la petite fille, la femme de 60 ans et un chien.
Ça nous rappelle un peu le pitch de Francis Weber qu'on a reçu le mois dernier, qui avait une histoire
de gravité,
également. Alors c'est du high concept, votre film?
Du high concept
Vous avez le droit de dire oui, hein.
Oui,
c'est pas mal, hein.
Ou non, hein.
Mais tu peux me dire ce que ça veut dire high concept, s'il te plaît?
C'est une idée forte, comme ça, la gravité, voilà,
okay. Ah, okay, c'est...
qui s'annule pendant quelques instants, ça fait un concept qui est très fort et on s'imagine très vite
de quoi il s'agit. Ouais.
Voilà.
Ah, donc c'est une remarque, plus qu'une...
Oui, c'est pas une insulte, okay. Hein. C'est positif, non, c'est très positif.
Mais oui, c'est sûr que amener un événement surnaturel dans la cité, l'idée c'est de décaler le regard tout de suite.
Très chouette. Eh ben merci.
Merci beaucoup.
Et enfin,
nous recevons Sonia Delay. Salut Sonia.
Ouais, salut. Ben moi je suis venue présenter un projet de fiction documentaire qui s'appelle Sex Buyers. Et qui, brièvement raconté, c'est une plongée, un road trip sensoriel dans les bas-fonds, les arrière-boutiques de la prostitution, où on va incarner, pour commencer, en fait, on se trouve à la place d'un acheteur de sexe, d'un client. Voilà.
Pareil, même question. Sonia, quel est le point de vue? Quels sont les points de vue? Parce que dans ton projet, apparemment, il y en a deux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de quoi il s'agit?
Voilà. Bah, en fait, si ça s'appelle Sex Buyers, c'est parce qu'à la fois, on va incarner soi-même un client, la prostitution, mais aussi à un moment, on va être mis en position soi-même d'être prostituée. Et donc, du coup, on va avoir un regard sur ses clients. Donc, et c'est vrai qu'il y a un renversement de point de vue qui a été voulu, qu'on ne doit pas savoir dès le départ. Ça, c'est très important parce que ça doit être comme un effet de surprise et ça doit fonctionner comme un piège. Donc, et j'ai voulu qu'il y ait ce renversement de point de vue parce que très souvent, on regarde beaucoup les personnes prostituées, mais on déplace jamais le regard, en fait, sur les acheteurs, sur les proxénètes. Alors qu'ils font partie, enfin, c'est les acteurs du système, c'est les organisateurs du système. Donc, du coup, je voulais, et puis c'est aussi une façon de sensibiliser les gens, en fait, en les mettant à la place d'eux, mais que ce soit pas juste un documentaire institutionnel en VR comme on peut en voir dans l'humanitaire. Donc, voilà.
Puisque ton projet a aussi un côté documentaire.
Oui, voilà, c'est exactement, c'est une fiction documentaire. Alors, c'est un genre qui s'est imposé à moi. Enfin, je vais pas répéter non plus peut-être ce que j'ai dit, mais c'est vrai que ça s'est... Ça s'est imposé à moi. C'est vrai que c'est particulier parce que, moi, j'avais moi-même des a priori sur le documentaire fiction parce qu'il y a un peu à boire et à manger. Mais en fait, il y a aussi des œuvres fiction du réel qui sont absolument waouh, quoi. Donc, j'avais pas forcément énormément cette culture-là du documentaire parce que moi, j'aime beaucoup de la fiction. Donc, je pense que la fiction m'a rattrapée parce que j'ai cette tendance-là, parce que j'ai envie de mise en scène forte. Et en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, j'ai des contraintes vu que je fais du documentaire. Je me base sur des témoignages réels. Et c'était toute la question, comment pouvoir mettre en scène une immersion en nous confrontant à des personnes réelles, mais qu'on puisse voir leur visage, quoi. Mmh. Or, le problème, c'est que dans ce milieu-là, la plupart des gens, ils veulent absolument pas, et très souvent pour des raisons de sécurité, hein, faut le rappeler. Moi, j'ai des histoires de gens qui, même alors qu'on voyait pas leur visage et tout, ils se sont fait rattraper par leur proxénète, des choses comme ça, d'accord? Donc, on est sur un terrain quand même super chaud. Et donc, voilà, je voulais à la fois pouvoir porter cette parole de témoins réels, de personnes que j'accompagne en plus, hein, c'est des gens que je connais, tout en respectant cet anonymat. Et donc, c'était tout l'enjeu du projet. Donc, d'où l'idée de faire cette forme hybride et en plus qui permet de rentrer. Il y a aussi un sens dans la mise en scène réelle, c'est-à-dire que souvent, ça provoque le fantasme, en fait. Quand on dit prostitution, ça provoque les fantasmes, ce que je comprends, hein. Mais du coup, je voulais aussi un peu déconstruire ce fantasme-là. Donc, partir de ce fantasme-là, qui est aussi auquel a beaucoup contribué le cinéma, et jouer avec ces codes du cinéma et faire des belles images cinématographiques, pour peu à peu déconstruire ce fantasme-là, et peu à peu glisser vers une mise en scène documentaire plus réaliste et plus dure. Mmh. Voilà.
Eh ben, c'est très bien résumé, c'est très clair. Eh bien, on commence tout de suite avec une question peut-être très technique, mais est-ce que la question du point de vue est la première question à se poser quand on écrit pour la VR? Qui veut répondre? François.
François a l'air de vouloir répondre.
C'est une question qui est encore un peu délicate. On a vu au début de la VR beaucoup de films en point de vue subjectif, où on incarnait en fait quelqu'un, et souvent en voyant un corps à l'image qui n'est pas le sien, qui est souvent très faux. Et moi, je trouve ça très perturbant. Raconter toute une histoire en point de vue subjectif, où on incarne quelqu'un, si on veut provoquer des émotions chez l'utilisateur, ça peut potentiellement être contre-productif. On a plus de 120 ans d'histoire de cinéma qui nous ont appris quand même que les émotions, le public le ressent quand il les voit s'exprimer sur le visage d'une personne. Alors pourquoi il n'en serait pas le cas non plus en VR, voilà. Ceci dit, le point de vue subjectif peut être utilisé, mais il doit être amené et justifié par la narration. Donc moi, je suis amené à travailler à produire des films qui sont... je suis un défendeur du point de vue objectif, du coup.
Omniscient, peut-être ?
Omniscient, tout à fait, où l'utilisateur est juste présent dans l'expérience, il n'incarne personne d'autre que lui-même, ce qui, déjà, au niveau de l'immersion, est un peu plus fort. Parce que, comme je dis dans mon livre, à partir du moment où l'utilisateur incarne quelqu'un et qu'il voit un corps qui n'est pas le sien, de façon consciente ou inconsciente, on ne peut pas couper aux questions de qui je suis, pourquoi je suis là, quel est mon rôle dans l'histoire, comment je suis arrivé ici. Et si... dans le film, l'histoire ne répond pas à ces questions très rapidement, eh ben, le détachement immersif se fait. Parce que il a pas eu ses, le spectateur n'a pas eu ses réponses à ses questions. Donc, le fait de l'amener d'abord avec un point de vue omniscient, donc objectif, lui permet d'avoir une compréhension globale de la scénographie, de l'histoire. Mais par contre, pour véhiculer des émotions, on peut jouer justement sur ces deux points de vue, à condition qu'ils soient justifiés et correctement amenés par le scénario.
Qu'est-ce que vous en pensez, les autres, par rapport même à vos projets? Je pense notamment à Gravité, qui multiplie les points de vue. Est-ce que vous faites rentrer votre spectateur tout de suite, ou au contraire, vous, comme le suggère?
Nous, un peu à l'inverse de votre projet, nous, on est tout le temps en point de vue subjectif. Je pense que c'est inhérent à ce projet-là en particulier. Peut-être si on avait écrit une autre histoire, on aurait décidé... C'est pas, tu disais, je suis un défendeur du point de vue objectif. Je pense pas qu'on soit des défendeurs du point de vue subjectif, mais c'est vrai que là, on amène un phénomène surnaturel dans une cité, des vagues d'apesanteur, on a envie de ressentir ça. Nous, en plus, les films qu'on a fait jusqu'à présent, ils sont toujours passés en cité, et il y a toujours eu un petit peu de fantaisie qui vient décaler le regard, et qui vient essayer de donner à voir la poésie des gens qui vivent dans cette cité. Et on avait envie, avec la VR, de s'approcher encore plus de cette singularité de point de vue et de poésie. Et c'est vrai que la subjectivité, elle permet ça. Alors du coup, c'est vrai que c'est plein de défis, des défis techniques aussi, parce que on est certainement au balbutiement de tout ça, et dans 10 ans il y aura peut-être plein de nouvelles techniques qui permettront beaucoup plus simplement d'être dans un corps, de voir ce corps tout en ayant une qualité d'image optimale à la fois et du corps et de ce qu'on voit autour. Nous là, on se pose plein de questions justement du coup pour essayer de à la fois voir le corps dans lequel on est, parce qu'on sent que ça a une importance pour sentir ce que ce corps éprouve lorsqu'il s'envole et lorsqu'il essaie de maîtriser cette apesanteur. Je sais plus ce que j'allais dire en plus.
Du coup, ça amène des questions, même si le film est écrit, vous réécrivez suite à ce qu'on... aux interrogations que vous-même vous pouvez avoir sur le point de vue, etc.
Oui, ben, nous là, depuis qu'on a écrit, c'est une première version de scénario, depuis on a rencontré des spécialistes de la VR qui nous ont, on s'est beaucoup interrogé sur le point de vue, et bon, finalement nous là, pour le moment, on a vraiment envie de garder ce point de vue objectif, subjectif.
Subjectif, objectif, c'est perdition.
On sent que c'est possible, mais c'est sûr que, oui, ça implique par exemple que, ce que tu disais, que on, tout de suite, on comprenne qui on est, pourquoi on est là, et qu'on se pose plus cette question-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément assez bien écrit pour le moment, donc on va retravailler. Mais par exemple, je ne sais pas si vous avez vu Miyubi, mais où on est un robot, et c'est vrai que c'est un robot qui est offert à un enfant pour Noël, donc tout de suite, il n'y a plus de doute.
Ah, et Philippe aussi est un film qui a très bien joué sur le point de vue subjectif, justement, à travers...
Avec la tête.
Avec la tête, voilà, on incarne une tête de robot, et ça a été amené... Alors bon, Philippe est quand même... J'ai beaucoup d'estime pour ce film parce que c'est un des premiers films vraiment ambitieux qui a été réalisé en VR, et on sent qu'il y a un vrai travail qui a été fait pour justement éviter de créer ce malaise.
Mais c'est un parti pris d'écriture dès le départ de dire on va mettre entre guillemets la caméra dans un objet et le spectateur dans un objet immobile qui va être transporté, qui va être manipulé, mais du coup on casse un peu la difficulté de se dire comment on emmène le spectateur. Ben, il est emmené par ce parti pris et donc du coup fixe, c'est-à-dire qu'après il faut jouer avec ça. Donc
et il est le centre de l'attention, voilà, c'est ça aussi, ouais, qui est très intéressant dans ce
mais
film.
Du coup on crée l'œuvre autour de cette règle qui est mon personnage et donc enfin l'intérêt principal du film et le spectateur est dans cet objet qui va être se transporté. Et donc Philippe c'est très malin. Du coup Miyubi, c'est vrai que c'est un robot années 80 un peu sur roulette qui bouge dans la maison, donc forcément après on crée toute l'œuvre autour de ça, quoi.
Après, le point de vue subjectif, il est lié aussi, les difficultés qu'il représente est lié au mode de narration. Quand on est en film de fiction en VR, on peut avoir ce sentiment d'être prisonnier, parce qu'on peut pas, quand on a un point de vue subjectif, on a envie de se déplacer. Et quand on ne peut pas le faire, ça peut être assez frustrant pour l'utilisateur. Donc à l'inverse, le point de vue subjectif fonctionne très bien dans les expériences qui sont de type room scale. Donc, c'est-à-dire les expériences où on peut se déplacer librement, on incarne un personnage, on peut se déplacer librement dans un espace déterminé. Moi, j'ai eu la chance de travailler à la production de Alice, The Virtual Reality Play, avec DV, DV Group. Et en fait, dans cette expérience Roomscale, on incarne Alice. Et justement, l'utilisateur comprend ça très rapidement. Et en plus, il peut interagir dans l'espace avec les objets, se déplacer en fonction de la narration, échanger, dialoguer avec les personnages qui répondent en temps réel par rapport au discours qui a été tenu par l'utilisateur. Donc, il y a une immersion qui est beaucoup plus acceptée et directe par le cerveau.
Parce qu'il y a aussi un dispositif que tu mets en place. C'est
tout
pas juste
fait.
Un Physique. Casque.
Tout à fait. Et en plus,
décor.
On avait mis un système sur... On avait bricolé le casque. C'était sur un casque HTC Vive, mais on l'a bricolé pour permettre à l'utilisateur aussi de voir ses mains dans l'expérience virtuelle. Donc, il est vraiment libre d'interagir avec l'environnement. Et en plus, il interagit physiquement... C'est un peu compliqué à expliquer. Il interagit virtuellement avec des objets physiques réels. C'est-à-dire, quand il va bouger une boîte, la boîte va bouger dans l'espace virtuel. Donc, au niveau de la proprioception, donc ce qu'on appelle les informations électriques qui sont envoyées entre le toucher et au cerveau, il y a une correspondance. Et du coup, l'immersion est beaucoup plus forte.
Ça se complique, là.
Mais c'est pour ça que l'écriture, on en parlait tout à l'heure, mais du coup, l'auteur, le réalisateur devient, le créateur devient aussi un peu ingénieur et doit être en mesure de comprendre la technique qui va intervenir sur le projet. La difficulté étant que la technique évoluant, il faut limite réécrire pour certains casques ou pour certaines technologies utilisées. Et c'est pour ça que la plupart des producteurs français et étrangers actuellement qui créent des gros projets de réalité virtuelle ont aussi des départements de recherche et développement limite plus importants que d'ailleurs la production pour appréhender tout.
Oui, on se réveille pas un matin en disant tiens, je vais écrire un film en VR. Il faut avoir testé avant et il faut connaître un petit peu la technologie et savoir ce qui est possible de faire avec.
Il faut aller se renseigner pas mal, ouais.
Est-ce que ça a été votre cas par exemple?
En même temps, c'est sûr, là, nous, on se renseigne beaucoup sur la technologie, mais en même temps...
Vous travaillez avec le CNES, par exemple, votre film.
Bah, le CNES, c'est plutôt pour les questions du corps et de l'apesanteur.
Est-ce que vous rajoutez de la technique sur la technique?
Oui, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que juste, c'est aussi important de travailler la narration, parce que, je sais pas, on a vu pas mal de films en VR jusqu'à aujourd'hui, où c'est parfois un peu mis de côté, enfin, pas mis de côté, mais... La technique prend le pas sur la narration parfois, et du coup, ce matin, on a entendu plein de projets où c'est super intéressant parce que maintenant, il y a des gens qui maîtrisent la technique, mais il faut aussi garder en tête et les réalisateurs et auteurs.
On est encore sur une période un peu laboratoire où les projets, la narration et la technologie, enfin, la narration doit commencer à prendre le pas sur toutes les technologies.
Garde juste ta réflexion, François, je voulais juste savoir le point de vue de Sonia sur cette question de point de vue, justement, parce qu'elle voulait intervenir tout à l'heure.
Alors, en fait, moi, la question du point de vue, elle a été un peu évidente, en fait, par compte tenu du sujet. En fait, moi, la VR, c'est un format qui s'est imposé parce que je voulais parler de ça, en fait. C'est pas quelque chose que j'ai cherché, ça faisait longtemps que je cherchais un moyen justement de rendre sensible la question du corps, de la mémoire traumatique, de tout ça et de toucher les gens, quoi, pour qu'on soit plus dans un rapport intellectuel sur ces questions-là, parce que j'en avais marre, quoi, et qu'à un moment j'avais envie de dire mais vous savez, à un moment c'est des rapports sexuels non désirés répétés, c'est des traumas, c'est des machins, enfin voilà, ça a un impact sur les gens et on va arrêter de sortir des grands discours philosophiques. Donc je voulais vraiment impliquer les gens et donc du coup, je me suis dit, mettons-les et les responsabiliser. Donc, mettons-les en position d'acheter, quoi, tout simplement. Et à un moment, mettons-les en position d'être eux-mêmes prostituées pour qu'ils voient ce que c'est, quoi. Et donc du coup, en fait, en ce qui me concerne, c'est vrai que sur ce projet, ça a été une évidence. Et pour le reste, mais je rejoins tout ce qui a été dit. Que bien évidemment, pour moi, c'est primordial et c'est la première chose, c'est la première question à se poser, parce que moi, je trouve quand même souvent, je vois aussi des œuvres, encore aujourd'hui en VR, où souvent je me dis, ouais, d'accord, mais finalement, à plat, sur grand écran, ça aurait pu être tout aussi bien. Pardon, hein. Mais,
non, donc... mais moi, je prends pas mal. Hein,
voilà. Non, mais oui, j'ai un style un peu, un peu enflammé parfois. Mais c'est vrai, souvent, et c'est pas pour remettre en cause les œuvres que je vois qui peuvent être de très grande qualité. C'est que je dis, bon, ok, génial, mais quand on est juste spectateur, pour moi, je trouve que la question se pose vraiment de l'intérêt de l'immersion. Voilà.
Tout à fait. Et je pense que d'ailleurs, Gaëlle. Je pense que ce serait pas mal que tu nous dises, toi, comment tu as vécu les choses, parce que c'est ton premier projet VR et tu viens du cinéma.
Oui, c'est notre premier projet VR avec Laura. Et en fait, on s'est dit que comme c'est un sujet qui est assez délicat
et qui est basé en Chine, il fallait quand même que l'on trouve un moyen de faire connecter le spectateur qui ne sera pas forcément chinois. Il est international, le spectateur. Donc, il fallait vraiment trouver un moyen de l'immerger dans un monde qui n'est pas le sien et de le faire comprendre des perspectives différentes qui peuvent nous paraître assez aliens. En fait, ce sont des concepts qui paraissent hyperboliques, mais qui, dans la culture chinoise, ne le sont pas. Elles sont réelles. Donc, enfin, on peut quand même faire ce lien avec notre propre culture ou n'importe quelle culture à laquelle tu appartiens. Mais le côté immersif, c'était vraiment pour que l'on puisse découvrir des points de vue différents. Et un peu comme dans ton projet à toi, prendre des points de vue différents, sauf qu'on l'aborde d'une technique très différente. Et je pense que ce serait peut-être même frustrant, en fait, si on incarnait un personnage auquel se heurtaient nos personnages. Et s'ils posent des questions, bah, il n'y a pas de réponse. Tu ne peux pas répondre à ces personnages-là. Du coup, le charme est brisé. Dans notre histoire, en tout cas. Après, si une histoire est construite pour, c'est sûr que vous allez construire la mécanique de ce monde-là pour que ça marche.
Oui, c'est ça. En fait, comme vous parliez au niveau de l'écriture, avec Gaël et Laura, quand on a élaboré ce projet, avant d'écrire une première ligne de scénario, on a passé 6 mois à travailler ensemble, à définir le projet, le sujet, les thèmes à aborder, les différents personnages, les interactions, quel point de vue justement chaque personnage va amener sur l'histoire, quel point de vue l'utilisateur doit avoir et peut avoir pour que ce soit cohérent et que ça matche. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de questions en amont pour définir le projet avant d'écrire et du coup écrire de manière directe et plus efficace et cohérente par rapport au support et par rapport à l'histoire qui va être racontée.
Hmm. Un vrai travail sur l'écriture, du coup. Pour le coup.
C'est même surtout un travail en amont l'écriture, avant de se jeter sur une page de papier ou sur son clavier.
En fait, c'est quelque chose qu'on devrait faire même dans les scénarios de cinéma traditionnel, de vraiment se poser la question d'écrire un scénario par rapport à la perspective de chaque personnage. Mais là, il se trouve qu'on est obligé de le faire, comme c'est le format de notre scénario. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait faire juste tout court dans n'importe quelle histoire pour vraiment approfondir le sens de chaque personnage.
Est-ce que toi, ça te fait réfléchir sur la façon dont tu vas raconter tes prochaines histoires, pas en VR ?
C'est sûr, je me dis que pour mon prochain scénario, en fait, j'aimerais bien l'écrire de la perspective de chaque personnage principal pour ensuite en faire un accord central. Ça ne veut pas dire que je vais mélanger les perspectives, mais pour moi, en tant que réalisatrice et auteur, ça me permettra de mieux comprendre les motivations des personnages que je crée.
Voilà.
Mathieu,
faites de la VR. Non,
j'allais juste rajouter, mais ça pas forcément de rapport, mais c'était juste sur le point de vue. C'est on a des nouveaux outils qui existent maintenant. La réalité virtuelle permet vraiment d'avoir une nouvelle palette de création pour interagir avec le spectateur, qu'il soit omniscient ou pas, que ce soit dans l'interactivité ou non. Et c'est assez passionnant d'essayer de comprendre quels sont les bons outils pour les bonnes histoires. Et il suffit de trouver. Et encore une fois, si la VR est un support pertinent, c'est pas toujours le cas. Mais c'est de se dire comment on interpelle le spectateur et comment on utilise le fait qu'il soit au centre de l'histoire.
Juste pour terminer sur cette histoire de point de vue,
François,
tu disais que voilà, pour faire entrer le spectateur dans ta narration, tu lui montres un petit peu tout ce qu'il y a autour et après on va dans le personnage. Ce qui permet donc du coup que la subjectivité soit claire. Là, dans votre projet, finalement, c'est vous proposer un univers visuel hyper fort. Tout à coup, on est dedans, c'est une sorte de claque un peu qu'on se prend.
Tu parles de gravité.
Voilà, bien sûr, je parle de gravité. Est-ce que vous avez d'autres techniques qui permettent ou d'autres astuces qui permettraient à un spectateur de s'immerger rapidement dans un film VR ?
Des astuces narratives.
Là, je peux te raconter comment ça commence pour nous. Par exemple, on est dans le corps de Mani qui, sur les 3 personnages, c'est quand même le personnage principal. Donc, c'est une petite fille d'origine tamoule qui a 7 ans. Elle est toute seule sur un mur, sur un muret, quoi, et elle observe une soirée, une fin de journée dans la cité. Il y a des enfants qui jouent à faire des dérapages. Donc, on est dans son corps. Donc, si on baisse la tête, on voit ses jambes gigoter sur le muret. Il y a des enfants qui jouent à faire des dérapages, une mère qui dit aux gamins de rentrer, certains qui rentrent, qui continuent à faire des dérapages, et puis tout se met à trembler. Autour d'elle, il y a des choses qui commencent à s'envoler. Son père, qui était derrière, vient la prendre dans les bras, l'embarque, et nous, on observe, protégé dans les bras de notre père, le dernier petit garçon qui restait à faire des dérapages s'envoler au-dessus de nous. Donc ça fait que on espère que dans cette première scène, on a compris qu'on était dans le corps de quelqu'un et on observe le phénomène qui va être au centre de notre histoire.
Et qu'il faut écouter sa maman quand elle nous dit de rentrer à la maison.
Voilà.
Après, par exemple, on a essayé de réfléchir aux transitions entre les personnages et les points de vue. Et par exemple, il y a une scène où la petite fille Mani regarde une vidéo sur YouTube et c'est des femmes qui sautent, qui s'entraînent à maîtriser la pesanteur. Donc elles sautent sur des trampolines, elles font des figures et des chorégraphies. Et c'est comme ça, et c'est en regardant cette vidéo qu'on passe du point de vue de Ghislaine, qui est une femme de 60 ans qui s'entraîne à la pesanteur dans un gymnase. Donc voilà, ça nous permet de poser un décor aussi.
Pour le chien, comment ça se passe?
Comment ça marche?
Alors le chien, on s'est demandé si ça allait être un chien empaillé sur qui on allait mettre une caméra. Donc le chien, c'est intéressant parce qu'on est tout en bas, du coup on change radicalement de niveau de point de vue. Il est contraint ce chien, il est enfermé dans un appartement, son vieux propriétaire a peur complètement, sort plus, fait plus rien. Donc ce qui nous intéresse avec le point de vue du chien, c'est qu'il observe le quartier depuis le sixième étage et il observe les rares déplacements qui existent dans cette histoire. Pour se déplacer, il y a des lignes jaunes qui ont été tracées dans le quartier qu'il faut suivre précisément parce que il y a des câbles reliés à ces lignes jaunes. Donc on s'arnache quand on sort, on est casqué. Et le chien lui-même, il est un peu emmitouflé. Le proprio, il l'a emmitouflé dans des coussins, etc. Et à la fin, il va s'envoler par contre. Mais du coup, le chien, pour l'instant, c'est sûrement de la post-production, une recréation 3D de son corps.
D'accord.
François, excuse-moi, tu voulais intervenir.
Non, au niveau des astuces pour permettre à l'utilisateur de bien comprendre la situation.
Ou de ne pas l'ennuyer. Hein,
ou de ne pas l'ennuyer.
Voilà, c'est important aussi de le dire.
Nous, ce qu'on fait de façon générale, quand on ouvre sur une histoire, et ce que vous faites d'ailleurs quelque part, c'est très intéressant sur le début de l'histoire, on laisse à peu près 20 secondes de temps mort, où l'utilisateur est juste présent dans la première pièce ou dans le premier lieu. Parce que le premier réflexe de tout utilisateur qui commence à une expérience, c'est de regarder tout autour de lui, justement, à 360 degrés.
On va en parler après.
Donc voilà. Donc le fait de laisser vivre ce temps et de l'anticiper, après on peut rentrer directement dans la narration. Et voilà. Et pour The Android, Gaël et Laura ont très bien compris ça et pris en compte ce genre de choses dans le scénario, en laissant vivre un peu les personnages, qui permet aussi de faire une première connexion, aussi bien avec l'univers riche, très coloré, avec des textures propres au mariage traditionnel chinois. Il y a un petit côté découverte, wow effect, avant de rentrer dans l'histoire. Et justement, dans l'écriture, il y a un vrai travail qui a été fait là-dessus. Ben c'est très bien, les filles, toutes les deux. Moi, en tant que producteur, je suis ravi de travailler avec Gaëlle et Laura parce que c'est très agréable. Par des personnages, une fois que l'utilisateur s'est approprié les lieux, il est attiré, mais par la personnalité des personnages qui arrivent tout de suite. Il se passe quelque chose. Et là, on a accroché l'utilisateur, le spectateur sur l'histoire.
Donc c'est important qu'il se passe quelque chose. Voilà.
C'est quand même important. Un événement, l'ennui est très dangereux en fait en VR parce que la sanction est immédiate. L'utilisateur retire le casque. C'est pas comme dans un film où on dit ouais bon c'est un peu lourd mais bon voilà on regarde le film, on laisse passer et puis on attend la prochaine scène d'action.
Oui, parce que là on a fait l'effort de mettre un casque et d'assister
c'est
à cette expérience.
C'est des choses qu'il faut prendre en compte dans l'écriture. Donc moi ce que je préconise toujours c'est de commencer avec un événement fort et après donc marquer l'intérêt de l'utilisateur. Et une fois qu'il est accroché dans l'histoire, et c'est là le plus gros challenge dans l'écriture, c'est comment on prend l'utilisateur par la main et on l'emmène dans une narration qui va le captiver de bout en bout.
C'est ce qu'on fait aussi en
fiction.
Voilà, tout à fait. Commencer avec quelque chose
fort. Toi, Sonia, pour le coup, il y a quelque chose de fort qui se passe, c'est quand cette prostituée vient voir l'utilisateur, enfin, le spectateur. C'est fort aussi, quelque part.
Je pense, de toute façon. Mais moi aussi, je pense qu'en fait, c'est un peu les mêmes questions qu'on se pose en narration, en fiction classique, en fait. Je le pense vraiment, parce qu'en réalité, on sait très bien qu'en 360, en effet, quand t'as une scène, au début, tu mets ton casque, t'as envie de voir. Mais très vite, en fait, on sait très bien que le champ de vision, il est un peu plus réduit. Hein, et qu'en réalité, l'espace de mise en scène, c'est vraiment à toi de le diriger en fonction des actions qui se passent, en fonction éventuellement du son, etc. Et puis surtout, tu vas éviter de faire comme au tennis, tu vas passer ton temps à faire ça. Enfin, c'est hyper désagréable. Donc en réalité, l'espace 360, Enfin, faut être honnête, on l'utilise pas à 100% tout le temps, parce que sinon on va pas tordre son dos. Enfin, voyez, on va pas le faire tout le temps, quoi. Donc,
alors ça, ça pose un problème déjà, en tout cas, cet espace 360.
Ouais, enfin, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, dans la narration, à un temps donné T, on va pas l'utiliser totalement en réalité.
Donc c'est un champ d'exploration. Après, il s'agit de
champ d'exploration et on oriente. Va guider les gens. Voilà, et après on oriente en fonction. Et de toute façon, il vaut mieux pas, parce que sinon physiquement c'est hyper désagréable pour le spectateur. Donc c'est ce genre de contrainte là. Mais de même que vous savez que tout ce qui est travelling, bon alors là je vais peut-être un peu trop loin, c'est pas la question.
Vas-y,
on verra après. Mais par exemple pour les travelling, on sait aussi très bien que ça pose des questions neurologiques, quoi, et qu'il y a des mouvements qu'on supporte pas, sinon on vomit. Alors, donc on est obligé de réfléchir à certaines choses comme ça. Et c'est juste pour terminer, donc par rapport. Pour revenir à mon projet, parce que moi, j'ai pas la prétention d'avoir une expertise sur toute la narration VR. Je pars vraiment du terrain, des questions, je pense qu'on découvre tous aussi ce format-là. Et dans le mien, c'est vrai que j'ai d'abord voulu plonger dans une immersion sous forme de fantasme. Donc du coup, on va pouvoir, voilà, mais on est complètement baigné, on ne sait pas trop où on est dans un rêve, enfin on est dans quelque chose comme ça. Et après, on va très vite dans une rue où, bon bah, il se trouve que j'ai un sujet, enfin pardon, mais quand on voit des femmes à poil, on les regarde. Donc déjà, c'est pas très compliqué d'orienter le point de vue. Non mais c'est vrai. En plus, on est à l'œil. Enfin, moi, mon interactivité, elle est essentiellement au gaz. Je sais pas pour vous d'ailleurs. Je sais plus. Je crois personne ici a des projets avec des manettes ou traits avec des gamifications qui sont très importantes.
Quand tu dis au gaz, qu'est-ce que
au gaz à l'œil, pardon. Au gaze, excusez-moi. Au regard, pardon. C'est vrai que ça fait un peu bizarre au gaz.
Oui.
Et voilà. Et c'est vrai qu'après, moi, on est beaucoup regard caméra. Donc c'est essentiellement ça. Ma mise en scène, elle tourne beaucoup autour de personnes qui vous regardent, qui s'adressent à vous.
Donc l'astuce, etc. Ça va être d'aller chercher le regard, si je comprends bien. Chercher le regard du spectateur,
bien sûr. On vous regarde dans les yeux énormément, quoi. Énormément, énormément.
Tout à fait. C'est tout à fait ça. Tu te poses vraiment toutes les bonnes questions qu'il faut. C'est vrai que pour les travelling, c'est le problème de la cinétose ou cybertose, comme on l'utilise. C'est... grosso modo, pour résumer, c'est le principe du mal des transports, mais à l'envers.
Motion sickness.
Voilà, c'est ça, exactement, en anglais. Ça, on sait l'éviter techniquement sur les travelling. Il y a une manière de faire les travelling pour éviter, enfin au moins, en tout cas, réduire au maximum ce phénomène. Après, effectivement, comme tu disais dans les casques, le champ de vision humain est naturellement à peu près à 120 degrés, mais la plupart des casques sur le marché ont des champs de vision qui sont à 90, 100, grand max 110 degrés. Bon, sauf pour les prochaines générations ou même encore le Star VR qui n'est pas encore sorti, qui est en développement depuis 2-3 ans, qui lui propose des champs de vision à plus de 200 degrés, je crois, 210 degrés ou quelque chose comme ça.
C'est énorme.
Donc voilà, après... voilà, mais c'est exactement ça, hein, toutes les questions sont là et c'est vraiment des questions qui sont très pertinentes à se poser dans un film.
Jérémy, tu voulais rebondir ?
Non, mais c'était juste... Moi, ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est qu'on est face à une technologie qui permet plein de nouvelles choses. Le spectateur, assez vite, il va être conscient de ça, et donc peut-être il va avoir des attentes d'interactivité. Et je trouve que les auteurs, on peut jouer avec ces attentes et le frustrer, le spectateur aussi, face à ça. Un petit exemple, c'est que nous, par exemple, il y a une scène qui commence dans un placard, on est... La petite fille, on est contraint, on ne peut pas sortir puisqu'on est enfermé dans ce placard. Et plus il se passe des choses à l'extérieur, plus on a envie de sortir. On essaie de regarder par les persiennes du placard. Bon, ça, c'est un petit exemple, mais surtout, en fait, c'était pour parler de ton projet Sex Buyer, parce que c'est une des choses hyper fortes de ton projet, c'est que tu fais le choix de donner beaucoup d'interactivité au début et volontairement de déposséder le spectateur de ses choix. C'est exactement ça. Je sais pas si tu veux raconter un peu d'où t'es venue cette idée et comment tu l'as construit, parce que je trouvais ça vraiment très riche.
Moi, ça vient tout simplement du fait que c'est de mon engagement humanitaire, en fait. Hein. C'est un sujet... sur lequel je travaille sur le terrain depuis des années, et puis je fais pas mal d'interventions en collège, lycée, pour prévenir des méthodes des proxénètes. On est très peu à faire ça. Alors, j'espère un peu plus maintenant avec les nouvelles lois, parce que c'est plus que nécessaire d'alerter en fait là-dessus. Et donc du coup, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues en fait sur la, il y a énormément d'idées reçues et parmi celles-là, il y a quelque chose qui revient en permanence, c'est la notion de choix. Donc c'est quelque chose que tu entends tout le temps, bah oui, c'est un choix, machin, etc. Alors que bon, la notion de choix, elle suppose déjà une alternative, quoi. Et il faut savoir que tu l'as pas forcément. Enfin voilà, j'ai pas envie de rentrer dans un débat philosophique, mais en tout cas, c'est parti de là. Et que donc, du coup, qui dit interactivité dit choix. En soi, l'interactivité, c'est un choix. Donc je trouvais que par rapport à mon sujet, vu que c'est une question qui revient en permanence, eh ben, j'ai justement voulu confronter les gens. Voilà, qui dit c'est un choix, machin, etc. En disant, bah voilà, d'abord, en tant que client, vous avez le choix, en fait. C'est peut-être vous qui avez le choix, le plus le choix. Et maintenant, après, on va vous mettre en position d'être prostituée vous-même pour vous apercevoir que cette notion de choix-là, bah, en fait, elle est restreinte en réalité. Plus tu t'enfonces dans le milieu, en plus, quand tu as commencé à 14 ans, qui est l'âge moyen quand même, qui est l'âge moyen d'entrer en prostitution, et quand tu n'as connu que ça, voilà, faut aussi comprendre que sortir de ce milieu-là, c'est très difficile. voilà, donc en fait, c'est intrinsèquement... cette notion de choix, elle fait partie de ma thématique. Donc, que l'interactivité, qui est déjà un choix, ça se rejoigne, c'était une évidence, en fait.
Ça ne pouvait qu'être un projet VR, finalement.
Je pense que oui, ouais.
Sur un point de construction aussi des histoires, et notamment tous les projets interactifs en général que je vois passer de transmédia ou de VR, pour les producteurs, l'enjeu c'est aussi de pouvoir tester ces formules-là. Et moi je vois de plus en plus de projets qui font des phases d'écriture et puis des phases de test et puis repartir en écriture. Et je pense que pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient se lancer un peu là-dedans, et notamment je pense que c'est un peu casse-tête aussi pour les producteurs à certains moments, c'est de se dire on n'est plus dans une phase où on va écrire au maximum avant d'aller chercher les financements, mais on va écrire et puis on va faire des tests, on va voir ce qui fonctionne ou pas, et il y a beaucoup de co-construction comme ça jusqu'à arriver au moment où on sait qu'on a la bonne formule pour le bon projet, quoi.
Et l'étape prototype, hein, à mon avis, est fondamentale. Enfin là, je vais parler de mon cas. On a réussi à faire un prototype bon, qui est ce qu'il est. Enfin, il passe très très bien, hein. Bon, après, moi, je n'ai plus que les défauts techniques, c'est normal, mais dans tous les cas, il permet de tester, justement. Et ça, c'est fondamental, en effet, pour continuer à avancer dans l'écriture. Parce que sinon, ça reste en fait abstrait. Il faut pas se leurrer beaucoup plus que dans un film classique, je trouve.
Ouais, ce qui est compliqué, parce que du coup, il faut quand même faire une petite installation prototype. Moi, j'avais pu tester Alice en format prototype, justement, à Cannes. Je pense que le résultat final était encore plus loin que ce que j'ai vécu. Mais du coup, ça oblige à réquisitionner des casques, du matériel, à faire des étapes, convoquer des développeurs, etc. pour créer Alice, les premières étapes, quoi.
Alice a été aussi surtout fait en 6 semaines, donc voilà, en plus, oui. Forcément, ça, c'était pas parfait la première exploitation, mais effectivement, on a pu tirer des leçons et des points de problématiques qu'on a pu régler pour la suite, notamment pour la Mostra de Venise où il était en compétition.
Mais on a aussi des outils de plus en plus. Il y a des outils, bah, des logiciels, notamment Virtelio ou OndaVR, qui, même s'ils ne sont pas ultra puissants en développement, ça permet quand même déjà de tester sans avoir à payer un développement lourd. Donc moi, je pense qu'il y a des outils qui vont venir aussi comme ça, à mon avis, qui vont permettre de maqueter, de prototyper dans une économie, j'espère, pas trop lourde, quoi. Mais après, il y a le CNC aussi qui sait qu'il y a ce besoin-là et qui, en développement, est capable. Alors, bon, il faudrait qu'il n'y ait pas que le CNC, mais c'est vrai qu'il y a aussi des aides au développement sur ces formats-là.
Et pour vous, auteur, c'est intéressant d'avoir très tôt des étapes de prototype pour pouvoir visualiser, vous, peut-être aussi, ce qui se passe réellement.
C'est clair, surtout que c'est très différent de ce qu'on se connaît dans le cinéma traditionnel. Du coup, on ne peut pas imposer un rythme dans l'histoire de la même façon qu'on peut l'imposer dans le cinéma traditionnel. On ne peut pas le faire au montage. On ne peut pas diriger l'attention avec un gros plan, par exemple, parce que les mouvements sont restreints. Et en même temps, on ne va pas faire un plan séquence de 10 minutes parce que le spectateur va se lasser. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse au jeu des acteurs, à l'emplacement, mais aussi au point de coupure. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir tester ça avant de se lancer dans toute la production et l'écriture du projet.
Si je peux me permettre, le point de vue du producteur,
oui,
il y a surtout une question de coût aussi derrière. Parce que
oui, un film en VR, on ne l'a pas dit, mais ça n'a pas le même coût.
Ça coûte très très cher.
Ah oui. Bah, la minute, si on fait un rapport temps-coût, c'est sûr qu'on est plus cher que le cinéma. Mais ce qui est rassurant, c'est que ces coûts ont tendance à se stabiliser, voire à baisser un peu au fur et à mesure de l'expérience, puisqu'il y a des choses qu'on arrive à anticiper. Et effectivement, l'étape du prototypage permet d'anticiper beaucoup de choses d'un point de vue technique. en VR, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur au moment du tournage.
Oui.
C'est très simple, hein, un cas concret. Une journée de tournage, le tarif moyen, c'est au bas mot 10 000 euros, entre 10 et 30 000 euros, selon la complexité du plan pour un plan fixe, une équipe, une caméra. Voilà. Derrière, comme je dis toujours en exemple, un plan tourné en 360, un plan de 10 secondes mal préparé, vous allez passer 3 jours en post-production à le recoller, à l'équilibrer, à le réparer pour qu'il fonctionne. Le même plan de 10 secondes bien préparé, vous allez passer 3 heures, grand max. Donc forcément, derrière, ce n'est pas les mêmes coûts. Donc voilà, c'est pour ça que l'étape d'écriture, moi en tant que producteur, je prends beaucoup de temps en amont avec les auteurs. Alors effectivement, c'est une temporalité assez longue pour faire naître un projet. Mais ce sont des étapes qui sont nécessaires et cruciales.
En parlant d'écriture, de tout ce qui se passe avant ces étapes de tournage qui coûtent cher, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on se rapproche pas mal du théâtre au niveau de la mise en scène et de placer sa caméra, parce qu'on a cette question de point de vue. Du coup, est-ce qu'on doit être à la fois scénariste et réalisateur d'un film en VR pour ces questions techniques aussi, de caméra et de son aussi, qui est tout autour de nous ? Est-ce que dès l'écriture...
De mon point de vue sur The Android, comme je coécris avec Laura, c'est vrai que mon point de vue de réalisatrice rentre en jeu dès le début. Et je pense que c'est un point fort, parce que sinon on courrait le risque d'écrire une histoire qui devrait être à la fin complètement réadaptée pour fonctionner en VR. Alors que là, je réfléchis à la mise en scène, au jeu des acteurs, et ne pas non plus insérer un moment très important dans l'histoire qui nécessiterait un gros plan ou que le spectateur risque de rater s'il regarde par-dessus son épaule.
Et Laura, qui est co-auteur avec toi, Gaëlle, elle, pour le coup, est une vraie scénariste. Donc elle n'a pas des prétentions de réalisation. C'est une scénariste, une jeune femme qui écrit aussi des petites fictions courtes, donc qui est très littéraire. Et ce duo, justement, d'auteur-réalisateur et vraiment auteur littéraire, permet aussi d'avoir un vrai scénario pertinent.
Pour rebondir sur ce que dit François, est-ce que vous, c'est un petit peu le cas, par exemple,
en parlant
de duo, vu que vous êtes ensemble, est-ce qu'il y en a qui est plus réalisateur, un plus scénariste ou...
Non.
Alors, dites-nous tout, on veut savoir.
On est tous les deux scénaristes et réalisateurs, enfin... On fait les deux, en tout cas. Et la question se pose pas, quoi. On réfléchit directement là où on va placer la caméra. Et c'est le cas aussi quand on écrit des films de cinéma classique.
Après, du coup, à l'écriture, nous, c'est assez excitant. L'idée de se dire, on va être loin du plateau. Donc, il faut tout penser en amont et donner beaucoup de pouvoir, quelque part, aux comédiens. Enfin, en tout cas... Nous, ça nous donne envie. On se questionne comment on va travailler avec les comédiens. Du coup, le tournage, on sent que ça va être un peu différent d'un tournage classique, qu'il va falloir qu'ils s'investissent d'autant plus, qu'ils portent les choses tout seuls, même si on sait qu'on peut aussi faire en multipass, et donc, c'est-à-dire. S'il se passe 3 choses sur les 360 degrés devant, derrière et à droite, on peut filmer ces 3 choses-là de manière un peu plus classique et les rassembler, mais il y a quelque chose de l'ordre du défi par rapport à la question liée au théâtre, donc de performance un peu, qui est assez nouvelle et excitante.
Nous, on ne se rendait pas compte de cet apport-là, enfin... Ouais. Et on est hyper impatients de tester ce que ça va être le jeu, quoi, pour les acteurs, parce que on a vu le making of d'Altération et ça se passe dans une piscine qui est fermée. Et c'est vrai, on se rendait pas compte que le réalisateur, enfin, toute l'équipe disparaît et laisse les acteurs libres pendant souvent des scènes assez longues puisqu'il y a moins de coupes. Et ça, c'est, ouais, ça va être hyper intéressant pour les comédiens aussi, j'imagine.
Ouais, là, c'est sûr, il va falloir faire beaucoup de répétitions avec les comédiens et vraiment assurer le coup. Et les prises de vue seront en fait un produit final plutôt qu'une expérimentation, comme ça l'est dans le cinéma traditionnel.
Mmh. Sonia, tu peux rebondir ?
Ouais, je voulais rebondir parce que, alors moi, il se trouve que je suis la scénariste et la réalisatrice de ce projet-là, mais sinon, dans l'absolu, je suis pas forcément certaine que voilà, il faille forcément que ce soit la personne qui réalise qui écrive, parce que une fois de plus, moi je trouve que c'est pareil que dans n'importe quelle en fait histoire, et que il suffit par contre d'avoir des scénaristes qui sont bien au fait de l'écriture VR. Voilà, donc on peut tout à fait créer des binômes avec scénariste réalisateur comme ailleurs. Après, c'est vrai que, alors il se trouve que moi j'ai eu la chance de tourner un prototype, donc ce que vous dites, bah, je l'ai expérimenté. Donc, c'est tout un tas de contraintes. Hein. C'est tout un tas de contraintes. Après, c'est très excitant, mais c'est vrai que c'est tout un tas de contraintes, parce qu'il faut aussi savoir. Alors, je pense qu'on aura la chance bientôt d'avoir des meilleurs retours. Parce que moi, je tourne en relief, donc je vous laisse imaginer la lourdeur du relief en retour, surtout quand vous êtes à l'extérieur, parce qu'à la rigueur, quand vous êtes à l'intérieur et que vous n'avez pas trop de distance entre, voilà, mais quand vous êtes à l'extérieur, sur du décor extérieur, où il faut des retours câblés, qui soient plutôt cachés pour que vous n'ayez pas trop de post-prod pour le retirer, enfin, vous savez, c'est quand même potentiellement le bordel. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas pu avoir de retour sur une de mes scènes extérieures. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, en gros, j'ai fait de la mise en scène à l'aveugle. C'est pour ça que je suis plutôt contente du résultat de cette scène, parce que franchement, parce que vous devez vous cacher. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'après, en fait, les acteurs, ils sont laissés comme dans une scénographie à eux-mêmes, quoi. Donc, et vous êtes dans une autre pièce où vous êtes cachés. Donc ça, c'est particulier. Après, moi, voilà, ce que je me dis vraiment maintenant, c'est que c'est un format en soi, pour moi, la VR. Pour moi, c'est vraiment la rencontre entre la scénographie et la cinématographie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de cinématographie pure, parce que le langage, la grammaire cinématographique, évidemment, du gros plan, des valeurs de plan, on n'est plus là-dedans. Mais c'est quand même de l'image, donc on peut pas dire qu'il y a pas de cinématographie. Donc voilà, et on est dans la scénographie, parce que c'est tout dépend de la façon dont on place les personnages, dont on les fait évoluer dans cet espace-là, dont on les fait venir vers nous, ou éventuellement, il y a quand même des travelling possibles, où on peut avancer. Mais pour moi, c'est vraiment la rencontre de ces deux langages-là. Et c'est ça que je trouve, en fait, vraiment passionnant, même si, franchement, en mise en scène, c'est assez galère, hein, faut être honnête. Je veux dire, je pense que les retours vont s'améliorer. Pour moi, c'est vraiment une question de retour. Voilà.
Gaëlle, tu veux rebondir là-dessus ?
Oui.
On t'écoute.
Par ailleurs, l'intérêt de la qualité cinématographique, c'est aussi de pouvoir bien lire les expressions des personnages, voir les détails, ce qui, pour l'instant, n'est pas toujours le cas dans beaucoup d'histoires en VR. Ouais,
surtout
ouais.
Au casque, en fait, parce qu'on a la résolution aujourd'hui dans les caméras, mais le problème, c'est la ça. Qualité des casques. Et alors, quand vous avez plein de pixels, vous êtes là, ouais, d'accord, alors je me suis emmerdée à faire une mise en scène émotionnelle et tout, sauf que
c'est ça.
On voit pas, voilà.
Donc, et du coup, il y a beaucoup d'histoires qui tombent à plat. Oui, même si on a la qualité dans la caméra et dans l'image, il faut que les casques soient à la hauteur.
C'est
donc,
le flux du casque, voilà. Non, mais c'est ça.
C'est un peu l'espoir quand même pour un futur proche. Pourquoi
il y a des problèmes de diffusion aussi, après, on pourra peut-être en parler, mais juste pour anecdote, du coup, sur les tournages et la conception des récits, c'est Yann Kounen qui disait déjà il y a 2 ans que lui avait dû tout réapprendre pour réaliser son premier court-métrage en VR, parce que même après une dizaine de longs-métrages de cinéma, au final, quand on arrive sur un décor de tournage VR, et ben on doit aller se cacher 400 mètres plus loin, et on doit réapprendre à parler à ses comédiens, on doit réapprendre tout un tas de choses. Donc en fait, c'est un nouveau support, et ça demande effectivement des compétences peut-être un peu différentes, mais même
c'est
si
une
on
autre
est...
façon de mettre en scène, hein, vraiment.
Ouais, bah j'ai fait mes débuts dans le théâtre, et en fait donc en passant dans le cinéma, on me dit souvent que j'ai un style assez théâtral. Du coup, je pense que la VR sera parfaite.
C'est adapté.
mais la VR c'est quand même ni l'un ni l'autre. C'est vraiment un animal à part entière. Ouais, c'est un hybride qui du coup ne remplacera pas du tout le cinéma ni le théâtre. Mais effectivement, il y a des questions qui se posent. Dans la réalisation, le jeu des acteurs, on n'est pas toujours obligé de quitter la salle. Par contre, ça dépend de comment on filme le film en VR, parce qu'on peut faire de la 360 sans pour autant filmer réellement en 360. Mais effectivement, de toute façon, dans tous les cas, il faut qu'on assure le coup et qu'on soit sûr du jeu des acteurs et de la scène avant de se lancer.
François.
Oui, l'analogie avec le théâtre, elle est très intéressante. Moi, le premier film que j'ai produit en 2015, en fin d'année 2015, c'était un petit court-métrage de 5 minutes, un plan séquence de vaudeville, en fait. On a remis en scène le coup de l'amant dans le placard, qu'on a tourné en 360 stéréoscopique, donc en 3D relief. Et en fait, on a joué à fond le parti pris du théâtre, puisqu'on a tourné avec des comédiens de théâtre. Et on s'est rendu compte que la nous, ce qui nous a marqué, enfin moi en tout cas, ce qui m'a marqué en tant que producteur, c'est de me rendre compte que les comédiens de théâtre arrivent à s'approprier l'espace. Et effectivement, en VR, on est en mise en scène spatiale. Et ils sont surtout habitués à improviser. Donc on répète avant les scènes, mais ils ne vont pas s'arrêter s'il y a un petit décrochage par rapport au texte, par rapport à la volonté de mise en scène. Il y a une liberté qui leur est donnée, hein, comme tu disais tout à l'heure. Et du coup, nous, ça a été très efficace, puisque sur ce vaudeville, on a commencé le tournage un matin à 9h30 et à 13h30, tout le monde était parti. On a fait 7 prises, 7 plans séquences et en plus, bizarrement, ce qui était rigolo, c'était de se dire que c'était de se rendre compte que la prise la plus intéressante, ça a été la dernière où on leur a dit bon allez, on en fait une dernière pour le fun, éclatez-vous, lâchez-vous, oubliez la caméra et ça a été la meilleure. Et par rapport à ce que disait Mathieu quand il parlait d'Alice, Alice is a Virtual Reality Play, le titre était souvent suffisamment évoquant lui-même. On est vraiment dans le concept. L'histoire a été écrite sous une forme de concept de théâtre immersif, où là, l'utilisateur est vraiment dans une mise en scène théâtrale avec des comédiens qui viennent interagir avec lui. Et donc voilà, c'est toujours un nouveau concept.
Alors moi j'avais quand même un petit point technique à faire là-dessus, parce que de mon expérience de tournage aussi. C'est que oui, ils ont une certaine liberté d'action, mais il y a aussi des contraintes techniques. En tout cas, moi, je vais vous parler de celles auxquelles on a été confrontés, qui se gèrent, hein, mais qui ont été galères, par exemple, sur, je dirais pas le film machin, où je sais que du coup, ils ont ramé 3 semaines après. Bah, je crois que c'était sur un proto de Yann Connell. Ils ont ramé après pour récupérer le stitching parce qu'ils n'avaient pas pensé à cette histoire-là. Et en fait, quand on se rapprochait de la caméra, on était quand même obligé d'être dans un certain axe. Parce que sinon, vous avez des galères en post-prod, parce que je ne vous raconte pas aussi l'usine à gaz que
pour
c'est
pas
que
la couper un acteur en deux. Ou...
Voilà, des choses comme ça, ou pour pas que ça fasse des déformations. Donc, il y a aussi des contraintes, comme au cinéma classique, de position, de positionnement d'acteur par rapport à la caméra. Donc, voilà, c'est relatif. Ouais,
tout à fait. C'est vrai que les caméras 360 qu'on a aujourd'hui ont une problématique, c'est le recollement des images entre deux caméras. C'est pour ça que nous, chez DV, on a une grosse partie de l'activité qui est aussi de la recherche et développement sur les caméras. Et DV a pu produire un positionnement de caméra spécifique qui permet justement de réduire la distance minimale à peu près à 2 mètres, là où les autres caméras, il faut être à 4 mètres minimum si on se chevauche. Sinon, on est coupé.
J'étais à 50 cm, moi.
À 50 cm, c'est problématique, ouais, effectivement.
Bah, ouais, on a réussi. Mais c'était très important, parce que moi, c'est très important dans mon projet. Il faut cette proximité. Je travaille beaucoup sur la proximité, donc c'est hyper important.
Donc, d'où l'intérêt du multipass, de tourner avec des objectifs à 180 degrés.
Voilà. Et du coup, justement, enfin voilà, vous voyez, on est en train de vraiment parler de rentrer dans le dur là.
Mais en plus,
des possibilités. Mais c'est vrai que moi, quand on a commencé à me dire, oui, mais tu sais, Sonia, plus on s'approche, plus c'est potentiellement galère. Ok, d'accord. Pourquoi ? Ben parce que le stitching, ça va poser des problèmes, blablabla. Et là, j'étais un peu décomposée au début. Et puis finalement, on a vu que voilà, c'était possible, qu'il suffisait de respecter certains axes et tout, etc. Et puis je pense que ça va peut-être continuer à s'améliorer. Mais c'est vrai que plus on est proche de la caméra, plus c'est problématique.
Et tout ça peut être anticipé aussi avec la forme narrative choisie dans le scénario et dans la façon de raconter l'histoire. Que ce soit une forme, alors que ce soit entre les formes passives ou actives, si l'utilisateur a la possibilité d'interagir avec le contenu. Moi, j'aime bien réfléchir souvent à différentes formes. Nous, on a développé ce qu'on appelle le sit-back relax, où en fait, c'est un parti pris de narration qui veut que l'utilisateur apprécie le film assis dans son canapé. Donc du coup, il n'y a aucune interaction, ou très peu, derrière lui. Ce qui nous permet d'avoir un champ de mise en scène de 250 degrés devant lui, qui correspond en fait, l'utilisateur peut tourner la tête de droite à gauche, mais il sait en fait que dans la façon dont la mise en scène est faite, il y aura très peu d'interaction à l'arrière, très peu de mise en scène derrière. Et du coup, en tournage, ça nous permet de faciliter techniquement les choses. Puisqu'on parlait du multipass, là, ça nous permet d'être complètement dedans, d'utiliser des objectifs ou deux dispositifs de caméra, de tourner en plusieurs morceaux et recoller l'ensemble dans une sphère cohérente et belle, sans défaut, en post-production. Mmh. Donc voilà, effectivement... Voilà, c'est vrai que c'est très compliqué dans l'écriture d'un film 360, mais c'est beaucoup d'y penser, de choses.
En fait,
voilà. C'est pour ça que c'est très important pour un auteur de ne pas être livré à lui-même, parce que sinon il va produire un scénario qui va être très difficile à vendre à un producteur parce que ça va faire peur et on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont...
Non, mais ça c'est très vrai parce que, et d'ailleurs on le voit aussi dans le making-of, on a tous regardé mes tirages, je crois, d'Altération, c'est qu'on se rend compte que la post-production, il faut qu'elle soit sur le tournage et qu'elle soit très impliquée dès le départ.
Tout à fait.
Voilà, et parce que pour être au fait de toutes ces contraintes techniques-là et des possibilités, et qu'en tant que réalisateur, auteur, mais encore plus en mise en scène, en réalisation, qu'on sache exactement où on va et ce qu'on peut faire. Et beaucoup plus encore que, je trouve, que dans le cinéma classique.
Et juste pour rebondir sur un truc, alors c'est un peu hors sujet, c'est pas vraiment le sujet du jour, mais c'est aussi, il faut réfléchir à la diffusion. Et effectivement, François parlait du canapé chez soi. On va aussi parler des salles d'arcade ou des festivals, etc. Et ne serait-ce que le type de fauteuil ou le type d'environnement dans lequel on voit le film. Après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer des vrais environnements, mais on peut aussi y réfléchir quasiment dès l'écriture, de dire le film sera diffusé dans telles conditions. Parce qu'on est encore sur une industrie qui n'est pas non plus largement diffusée, et on peut penser à ça, quoi.
Bah, pour rebondir là-dessus...
On fait des rebondissements.
C'est vrai que c'est une vraie question, la diffusion, parce que moi, personnellement, pour l'instant, à chaque fois que j'ai vu un film en VR, je me suis senti assez seul. C'est pas une expérience de spectateur que j'ai l'habitude d'avoir, c'est-à-dire que
parce que tu es juste spectateur, il y a pas de public en fait. Le film VR, finalement, c'est pour un spectateur, c'est pas pour un public.
Exactement. Et en général, quand je vais au cinéma, ben il y a plein de gens autour de moi et l'expérience.
Est-ce que tu les regardes pendant le film?
Ah mais on les sent, l'expérience d'une salle qui
parfois un peu trop,
par exemple, ou qui frissonne. Je crois que quand on fait des films, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'on a, on espère créer des émotions collectives un petit peu. Et je pense qu'il y a un vrai questionnement à avoir sur comment donner à voir des films en réalité virtuelle avec des casques, mais où on peut après partager son expérience.
C'est l'avant ou c'est plutôt l'après expérience. Mais du coup, ça renvoie à une des premières questions, c'est comment on interpelle le spectateur. En fait, c'est une autre forme de connexion sociale. C'est qu'en fait, vous allez créer des projets pour des gens qui vont les regarder seuls. Après, éventuellement, on peut réfléchir à l'accompagnement ou...
Enfin, je sais... Oui, pardon.
Non, puis dans le futur, si la technologie avance vite, on sera plusieurs personnages dans un même film. Enfin, ça...
Alors ça existe pour les salles d'arcade VR. Le jeu vidéo permet aujourd'hui de partager des expériences à plusieurs. On met chacun un casque dans son coin et puis on arrive dans le même univers. Après, il y a aussi les salles 360 où on peut en rentrer à 20-30 et puis il y a un vrai écran 360 qui passe des projets. Alors, tous les projets ne seront pas forcément adaptés à ça. Mais je pense qu'il faut aussi réévaluer l'aspect connexion avec son audience et de se dire finalement, non, j'arrête d'écrire pour des salles de 200 personnes où il y aura un côté social, une expérience commune, mais plutôt des expériences individuelles et peut-être réfléchir à l'après, c'est-à-dire comment on fait pour en parler ensemble.
Oui, c'est simple. Moi, j'ai vu dans des festivals rendre la VR très sociale, dans le sens où les gens, effectivement, ils regardent l'expérience individuellement, parce que c'est une expérience pour le moment encore nécessairement individuelle, parce que chacun son casque. Mais derrière, après expérience, il y avait un sas de décompression où les gens se retrouvaient et pouvaient échanger entre eux des films. Bon, c'était au Fivars de Toronto que j'avais vu ça. Bon, après, c'est vrai que les Canadiens sont assez ouverts les uns vers les autres. Ils sont pas de mal à communiquer entre eux. Donc, c'est assez spontané et naturel de la part des gens.
Tu voudrais dire qu'à Paris, ça marcherait
moins
bien?
Non, parce que au MK2VR, Elisha Kermitz qui dirige le MK2VR, voilà, il y a un bar. Donc, ils ont pensé à ça aussi. Donc,
tu n'es pas seul.
Et voilà. Et pareil, dans des expériences room scale ou
location
based, donc, qui sont dans ces salles VR, on peut, dans la mise en scène, on en parlait dans l'histoire, réfléchir à un concept où, par exemple, ce bar fait partie de la narration et est un sas préliminaire à l'expérience que va vivre l'utilisateur en réalité virtuelle. Donc, c'est des choses qui sont à réfléchir aussi à l'écriture.
Moi, je suis complètement d'accord avec ça aussi. Je trouve qu'une des meilleures façons... Enfin, moi, j'aime voir la VR en salle, des salles VR. Et je pense que ça... Enfin, j'espère en tout cas que ça peut avoir un avenir. Et que même en marketing, on peut imaginer aussi des salles qui correspondent à quelque chose de l'univers. Et même si on n'est que 20 ou 30, moi, je trouve quand même qu'on le partage ensemble. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Et par contre, tout seul chez soi, en effet, derrière son ordi, moi aussi, ça me fait un peu de la peine. Mais bon.
Mais après, alors juste pour dire aussi, en termes de narration, on peut aussi réfléchir à des choses. Moi, j'ai eu la chance de voir le projet d'Inaritu qui était donc à Cannes. Toi, tu l'as vu aussi, François?
Non, je l'ai pas
vu. Et en fait, Inaritu, alors il y a l'expérience en elle-même, mais en fait, juste avant et juste après, il y a des sas de décompression. L'ours a testé l'expérience, il n'était pas content. Mais juste avant et juste après, donc c'est une expérience sur les migrants entre le Mexique et les États-Unis. En fait, juste avant, il y a une salle avec des photos où on enlève nos chaussures, puisqu'on fait l'expérience pieds nus, les pieds dans le sable, ce qui contribue aussi à l'expérience. Mais juste avant, il y a déjà une salle où on est dans l'atmosphère, on est dans l'ambiance. Et en fait, juste après, on remet ses chaussures. Et juste après, il y a un grand couloir avec tous les portraits des gens, puisque l'expérience est basée sur des gens qui ont raconté leur vrai passage de la frontière. Et juste après, il y a des photos avec des textes. C'est un peu une muséographie, quelque part. Et ça participe à la narration. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à, pas juste à l'expérience technologique et immersive, mais comment j'accompagne aussi et je raconte mon histoire. Et en fait, ce couloir-là nous fait prendre conscience, au-delà du gimmick « j'ai fait de la réalité virtuelle », sur un gros projet rigolo, enfin, moins rigolo, mais du coup juste après il y a une vraie prise de conscience en fait du sujet, et ça c'est hyper important. Après ça nécessite un lieu, etc., mais c'est important.
Le conditionnement psychologique et émotionnel,
bah, ça en fait des choses,
mais comme quoi la réalité virtuelle est un outil, mais pas forcément isolé, quoi.
Ouais, bah, encore beaucoup de choses sont à expérimenter et à faire, en tout cas, mais on va revenir sur des problématiques beaucoup plus concrète et geeko d'écriture. Et on a une question qui est toute bête, mais un scénario de film en VR, ça ressemble à quoi ?
Moi, j'ai vu des espèces de dessins sur des murs. Est-ce que c'est
ça ? On fait des dessins.
Est-ce que ça comme... se dessine, ça se photographie, ça s'écrit pas ? Enfin,
on fait des prototypes.
Non, c'est pas du tout.
Prototypes. Avant Gaëlle. Cela.
Bah, nous, pour l'instant, ça deviendra un très gros paquet avec toutes les narrations alternatives. Mais on a aussi un tableau, Excel, soi-disant, où on fait une cartographie, en fait, de l'histoire et où est-ce que chaque personnage va aller et comment est-ce que les trames narratives vont se rejoindre. Donc, pour qu'on ait un plan de route, en fait, sur le scénario. Et après, le scénario, bah, il est très, très épais.
Mais en fait, et
surtout,
là aussi,
et surtout écrit de façon très, enfin pour The Android, il est écrit de façon très traditionnelle, puisque justement on a fait tout un travail en amont pour savoir dans quelle direction on allait. Donc on n'est pas, et puis Gaëlle étant réalisatrice du projet, on n'a pas eu le besoin pour le moment de donner des informations précises de mise en scène, ce qui se passe en haut, ce qui se passe devant, ce qui se passe derrière. Tout ça, c'est une étape qui viendra au moment du storyboard, en fait, quand
on définira
la mise en scène.
Vous avez choisi de ne pas écrire ce qu'il y avait dans la mise en scène au scénario. Tout l'espace scénique n'est pas représenté au scénario.
Y a l'action des acteurs qui est forcément inévitable, donc ça va de soi. Mais après, effectivement, le reste, ça viendra avec le travail, avec le chef décorateur, je sais pas comment on appelle ça en français.
C'est ça,
le directeur artistique,
directeur
surtout.
Directeur artistique.
D'accord.
Ça viendra avec le lieu spécifique. Mais bon, comme j'ai une idée très claire de l'esthétique de l'histoire. Enfin, c'est un peu une balle que l'on renvoie et que l'on reçoit, et voilà. Enfin, c'est un travail en amont.
Ouais, moi, je pense qu'il y a trois questions, parce que là aussi, ça dépend de quel scénario. Si vous avez un scénario qui est pas interactif, en fait, ça va rester un scénario classique, voilà. Et après, les questions, c'est des questions de mise en scène. Enfin, vous voyez. Après, quand il y a un scénario interactif, en effet, ça peut vite être complexe, notamment dans le cas du tien, où c'est vrai qu'il y a plein de points de vue, donc. J'imagine le casse-tête, et là on est plus dans un scénario en fait de game, de jeu vidéo en fait. On est plus dans un scénario, je pense, comme ça. Enfin bon, voilà. Et en ce qui concerne le mien, c'est vrai que l'interactivité, elle est quand même assez sobre, elle n'est pas extrêmement complexe. Donc moi j'ai commencé d'abord à écrire avant de scénariser. C'était beaucoup dans ma tête en fait. J'avais pas. Et après c'est assez vite un scénario classique avec avec les quelques options qui se posent, mais je l'écris assez classiquement en fait, mais parce que j'ai pas une arborescence super complexe, et sinon il y aura pas d'interactivité en fait, c'est comme un scénario classique.
Il y a des arborescences, Adrien, dans leur scénario.
C'est bizarre. Hein.
Ouais, moi je comprends pas.
Mais attends, Fanny, l'interactivité, juste pour rebondir, après Fanny, je te laisse la parole. attention à l'interactivité et parler de gamification, parce que justement dans un scénario c'est très important. La disposition mentale et émotionnelle de l'utilisateur n'est pas la même s'il rentre dans un procédé de gamification que s'il est dans une narration d'une fiction, par exemple. C'est souvent le problème, on parlait des manettes tout à l'heure. Si on commence à donner nous on a vu ça dans différents salons ou en faisant des démonstrations, à partir du moment où on donne les manettes aux gens, ils ont tendance à regarder autour d'eux en disant « Où est-ce que je tire ?»
Et ça, du nous coup, sort, ça nous sort de
exactement, la... c'est pas le même dispositif, c'est pas la même disposition émotionnelle de l'utilisateur, et c'est contre-productif par rapport à un scénario.
En fait, on est en train de parler des limites entre le jeu et une fiction interactive, et ça, c'est extrêmement délicat, c'est où est-ce qu'on se place. Et ouais, c'est une des grosses questions, je trouve, quand on fait de la VR interactive.
Alors, où est-ce qu'on se place par rapport au jeu vidéo, du coup?
Ben,
parce que le jeu vidéo, néanmoins, a apporté des choses. Tu parlais tout à l'heure du point de vue extérieur, on en rentre dans le personnage, c'est typiquement quelque chose qu'on retrouve dans les jeux vidéo.
Oui, si on prend le cas de The Android, on est plus sur des interactions invisibles. Ça veut dire que nous, on a fait le parti pris dans le développement que l'utilisateur ne se rende même pas compte que c'est lui-même qui crée son propre cheminement. Puisque on envisage une codification de l'application où c'est elle-même qui va définir sur quel personnage l'utilisateur a porté le plus d'attention. Et en fonction de ça, le montage sera derrière. Et c'est ça qui va être intéressant d'un point de vue social, c'est que derrière les deux ou trois utilisateurs qui vont faire en même temps The Android, quand ils vont parler du film, ils vont vite se rendre compte qu'ils n'ont pas vu le même film, mais qu'ils ont compris la même histoire.
Bah, c'est un peu comme dans la vie réelle, en fait. On fait des choix et on ne se rend pas compte des conséquences. On ne voit pas forcément où est le moment clé ou la narration.
Ça existe aussi dans le théâtre immersif.
Tout à fait.
Ça, mais après, le jeu vidéo a des gimmicks bien connus comme les niveaux, les boss de fin de niveau, les quêtes, etc., qui vont effectivement, comme le dit François, mettre le joueur dans un dispositif mental spécifique. Je pense qu'on peut essayer quand même de parler d'interactivité et d'utilisation de manettes dans certaines fictions pour que le spectateur se sente impliqué, par exemple, sans que ça crée forcément un jeu à part entière.
Et c'est pour ça que pour éviter d'avoir ce procédé de gamification pour Alice, The Virtual Reality Play, on avait mis un dispositif Leap Motion, en fait, pour que l'utilisateur voit ses propres mains, au lieu d'avoir des manettes. Parce que, encore une fois, si on avait mis des manettes, même si on est sur du théâtre immersif, il aurait été dans une disposition de jeu vidéo. On aurait été complètement contre-productif par rapport à ce qu'on voulait raconter.
Et voyons, ce qui est fascinant, c'est que chaque spectateur peut limite créer son histoire dans certains dispositifs. On peut ressortir en n'ayant pas vécu franchement la même chose.
Mais c'est vrai que personnellement, moi, ce que je trouve intéressant, et c'est ça qui est intéressant aussi dans Virtelio, quoi, quand ils ont commencé à nous dire, mais nous, on peut faire des choix inconscients. Là, mais c'est génial. Tu vois, où on n'est pas obligé de faire des boutons, choses forcément conscientes qui se rapprochent peut-être plus du jeu, où là, en fait, c'est vraiment quand c'est ton regard qui s'attarde un peu plus et qui t'emmène vers quelque chose. Et ça, c'est hyper intéressant parce que je trouve que. Enfin, moi, je trouve que le cinéma, moi, je fais quand même ça pour faire une œuvre cinématographique, malgré tout, enfin, même si on est entre les deux, enfin, ce qu'on veut, que c'est un peu spécial, et que du coup, on est beaucoup au regard, parce que moi, je trouve que les manettes et tout ça, bon, ok, je dis pas qu'il y a pas des expériences qui sont sympas à faire, mais moi, je trouve que ça nous sort un peu, en fait. C'est mon point de vue.
Mais après, le comportement du spectateur peut justement guider le récit un peu. Ça qui serait fascinant, c'est de voir arriver des histoires qui utiliseraient pleinement toutes les options de la réalité virtuelle, que ce soit genre le regard. Que ce soit l'attitude, justement debout, assis, essayer d'envisager une narration dans laquelle le spectateur va modifier les choses, mais en tout cas créer son propre chemin. C'est ça qui pourrait être intéressant.
Et ces choix qui sont à l'insu du spectateur, en fait, ça travaille contre ses propres préjugés aussi, parce qu'un spectateur va peut-être choisir. Enfin, s'il avait le choix, il choisirait de rester. Par exemple, dans ton histoire, Sonia, il resterait peut-être en consommateur ou en prostituée, peut-être. Enfin, sans doute pas, mais il aurait un parti pris, parce que c'est aussi très désagréable de se voir en acheteur et en personne qui stimule cet environnement ou qui subit, oui, mais
après donc... si tu choisis de faire de mettre le cas sur ce projet, je pense que tu y adhères, sinon tu le fais pas du tout, je pense, ouais. Tu vois, je comprends ce que tu veux dire, c'est une vraie question, mais par contre ce qui est vrai, c'est que en tant qu'auteur c'est ils peuvent choisir quelque chose qui est pas que tu as pas forcément auquel t'as pas, enfin cela dit, moi j'y crois pas, parce que je pense qu'on choisit, on crée forcément les différents chemins. Ce que je veux dire, c'est que même si c'est des choix inconscients, les scénaristes y ont pensé avant.
C'est intéressant, c'est d'essayer de pouvoir contrôler un peu.
En général, puis en tant qu'auteur, ce qu'on veut, c'est contrôler le point de vue. Enfin, il faut être honnête, si on fait ça, si on veut raconter des histoires, si on est cinéaste, c'est qu'on veut garder quand même une main sur le point de vue. Sinon,
rendre les choses intéressantes, sinon, effectivement, on va avoir quelqu'un qui va attendre dans un environnement pendant un quart d'heure sans rien faire.
Donc, en réalité, on veut récupérer la maîtrise de ce point de vue-là. On est metteur en scène pour ça, je pense.
Non, mais c'est clair, les créateurs du projet gardent le contrôle. ultime de l'histoire. Mais l'utilisateur, par exemple, dans The Android, va peut-être préférer rester avec Gen Gen. Et bah non, bah il regarde à droite et ok, il suit Huawei. Et il devient un automaton, un Android qui subit le regard non seulement des autres, mais aussi l'objectification. Et ce qui est une position très, très désagréable. Et notre spectateur aura sans doute pas spontanément voulu choisir cette trame-là. Donc, ce qui le mène à réfléchir différemment aussi. Et bon, bah, sait-on jamais, ça peut aussi faire évoluer les pensées aussi.
On en était à la forme du scénario pour vous, la Team Gravité.
C'est en gravité justement le scénario.
Non, c'est ça flotte.
C'est pas juste flotte. Des feuilles volantes.
Non, mais c'est très classique. Il est resté assez classique notre scénario ouais. Puisque.
Ah, bah, je suis déçu, quoi.
La...
Désolé.
Non, la seule chose qui a changé et qui nous a beaucoup amusé, c'est qu'on a écrit à la première personne « je ». Mais c'était, du coup, même en le lisant, c'est étonnant pour nous.
Oui, oui.
Mais,
Intéressant.
C'est assez simple pour l'instant parce que, pour l'instant, nous, on n'arrive qu'à la scène finale avec l'opportunité de choisir si j'ai envie de passer du point de vue de Ghislaine à celui de Manny ou à celui du chien. Avant, c'est des scènes où chacun est dans son environnement séparé et donc on est d'un point de vue et on y reste. Comme disait Fanny, on est au début de l'écriture, donc on imagine bien que l'arborescence peut arriver à tout moment si cette dernière scène, par exemple, elle s'étoffe et que donc il faut imaginer ce que voient l'un et l'autre pour donner le choix au spectateur de changer de point de vue à la guise.
Et on trouvait ça intéressant aussi de forcer le spectateur à aller vers le vide, à avoir peur, à sauter dans les airs sans qu'il ait le choix de la... Mais bon, peut-être que c'est un peu trop... Je sais pas.
Bon, on verra ça. Chers amis, le temps nous est compté. On va devoir rendre cette belle loge très, très vite. Et on va finir avec un dernier tour de table et une dernière question pour chacun d'entre vous. Comment vous voyez l'avenir de la VR? Et au passage, comment est-ce qu'on peut suivre votre travail et voilà, vous retrouver en ligne peut-être?
Et nous dire quand votre film sera visible,
voilà.
Peut-être.
On commence avec la Team Gravité.
Alors, je commence par la réponse simple. On est au début de l'écriture, donc on ne sait pas quand on va le tourner, mais on espère l'année prochaine, j'imagine. Sinon, là, on est en train de finir un autre court-métrage. On est au montage d'un court-métrage classique qui sortira en début d'année prochaine. Qui s'appelle Chien bleu.
D'accord, il y a beaucoup de chiens dans vos histoires.
Voilà. Toujours des chiens.
Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la VR, du coup? Comment ça peut évoluer?
Ça n'a pas marché, cette histoire. Non, je plaisante.
Nous, on parle beaucoup. On espère que la qualité de l'image va s'améliorer vite pour avoir... ça nous intéresse beaucoup, quoi, de pouvoir regarder des décors nouveaux, d'être projeté dans des environnements complètement nouveaux, de devenir quelqu'un d'autre. Mais pour ça, on a l'impression que l'image compte pas mal pour y croire. C'est pour ça qu'en animation, ça marche bien aussi, parce qu'on est vraiment immergé.
Donc ouais, la technique, quoi.
Ouais, moi, j'ai un peu la sensation, au-delà de ça, que certainement, l'interactivité, elle va se démultiplier, les possibilités d'interactivité. Et en même temps, moi, je sens qu'il y a quelque chose de fondamental d'inhérent au cinéma qui est effectivement le point de vue du cinéaste. Et que du coup, on en reviendra aussi souvent, même dans 20 ou 30 ans, à des narrations assez simples, c'est-à-dire... où le spectateur, il n'aura pas 15 000 possibilités d'interactivité parce qu'en vrai, il rentre dans l'univers et l'histoire d'un cinéaste qui veut l'accompagner là-dedans.
Mais en tout cas, c'est quand même l'occasion de redistribuer les cartes. C'est une petite révolution, la VR. J'espère que ça va aussi changer des choses dans la manière de travailler et de voir la narration, enfin... Et même de travailler en équipe. Ouais.
De voir la narration évoluer au final, c'est ça, tu veux dire?
Ouais, mais je sais pas. Je suis attendue de surprise par le tournage qui s'annonce.
Mais c'est vrai que pour rebondir, moi aussi, je pense que le plaisir du cinéma et le plaisir, c'est d'être embarqué. On y va aussi pour ça. Donc voilà, donc là-dessus, moi aussi, je pense que ça ne changera pas, désolé, il n'y a pas de révolution là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que l'immersion, quand même, alors moi, je ne suis pas devin non plus, mais Moi, j'espère que c'est un format quand même qui va se pérenniser dans le temps et que ça ne durera pas 5 ans et, voilà, et que le soufflet ne va pas, s'écraser comme le relief plat. Je pense aussi que c'est l'avenir du relief, moi, l'AVR, en fait. Parce que tout ce qui est relief à plat, ça n'a finalement pas tellement marché, ça n'a pas trop pris. Alors que moi, je trouve qu'il y a une grosse différence en immersion. Enfin, le rendu immersif en relief, et, wow, il n'a juste rien à voir avec le rendu 2D, hein. Et j'espère surtout, voilà, tel qu'a fait MK2, qu'il y ait des salles ou des multiplex qui investissent dans des salles VR, parce que je pense que ça passera par là. Je pense que ça passera par là, parce qu'il y a aussi un plaisir à y aller ensemble. Et en tout cas, moi, j'espère ça, parce que moi, j'aime la salle. Alors, voilà, j'aime la salle à plat, et j'aimerais qu'il y ait des salles aussi en VR, et en plus je pense que c'est le lieu pour, quoi. Et donc moi je vois ça comme un format en plus, comme il y a eu le téléphone, il y a eu la télé, voilà, il y a eu la radio, il y a eu le cinéma, enfin voilà, il y a la VR, quoi. Enfin, j'espère.
Ok.
Pour avoir quand on filme
Alors écoutez, moi je sais pas trop, parce qu'on est en pourparlers avec des diffuseurs, mais on est comme tout le monde, on est en montage financier. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse tourner l'an prochain aussi, mais ça dépendra de l'argent qu'on a, quoi. Donc, on vous tiendra au courant.
Ouais, avec plaisir.
On va suivre ça.
Team Android.
Dites-nous tout. The Android, François pourra vous en dire plus sur quand on le réalisera, parce que on
alors, François,
aussi,
quand on réalise, nom de Dieu.
La pression au producteur.
Non, je suis plutôt optimiste et confiant pour The Android. Moi, la timeline, le calendrier que je sur lequel je me projette est plutôt sur des essais, justement, un prototypage technique au printemps pour un tournage à l'automne et une diffusion au printemps 2019. Voilà. Après, pour l'avenir de la VR, alors là, moi, je suis hyper enthousiaste.
Au point d'en écrire des livres.
Ah oui, oui, c'était justement. Alors le livre, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était pour permettre à tous les gens venant du cinéma et voulant s'approprier ce médium pour la création, et qu'ils puissent l'approprier dans le bon sens, éviter les pièges que moi j'ai pu expérimenter depuis 2013 où je m'intéresse à ce médium.
Tu peux nous rappeler le titre ?
Réaliser son premier film en réalité virtuelle. Il est publié par un MediaQuest.
Je mettrai un petit lien dans la description.
Oui, avec plaisir. Et alors là où je suis enthousiaste aussi, c'est moi, il y a 2 ans, quand je me suis lancé dans la production de fiction en VR, les gens me regardaient avec des gros yeux en me disant « mais tu es fou, ça va jamais marcher ». Et aujourd'hui, voilà, on a...
On fait des podcasts sur le VR.
Exactement, avec des gens qui viennent du cinéma, et Cannes l'a prouvé cette année, après le Festival de Venise, a mis la VR à l'honneur. Et en plus, chose extraordinaire, cette année, on a assisté à une transformation du modèle économique de la VR. Et c'est, moi, c'est la première fois que je vois un médium dont le modèle économique se transforme en même temps qu'il se construit. Et on a eu de plus en plus, cette année, on a eu une explosion des salles VR, donc qui maintenant reste à savoir lesquelles vont être pérennes au niveau de leur modèle économique. Mais en tout cas, il y a de plus en plus d'investissements qui se font sur ce support-là, qui me laissent entrevoir.
Il y a même des vendeurs et distributeurs qui se spécialisent.
Oui, dans le cinéma.
Alors, Wide MK2.
Voilà, moi, je vais parler encore du point de vue du producteur. L'année dernière encore, si on nous achetait un film ou pré-achetait, les minimums garantis, les pré-achats ne sont pas encore bien rodés sur la VR, mais l'année dernière, si on nous donnait 1 500 € pour acheter un film en VR, c'était waouh, c'est bon là, c'était la grosse fête, on sortait le champagne au bureau. Et là aujourd'hui, donc 1 500 €, c'est quoi? C'est 4 chiffres. Là, on est quand même, cette année, on commence à parler de 5 voire 6 chiffres. Donc voilà, il y a vraiment des grosses attentes.
En minimum garanti distributeur.
Pas en minimum garanti, mais
ah,
en
oui.
achat.
En achat.
En achat.
D'accord.
Mais on est en tout cas, après forcément, on s'oriente plus sur les marchés américains, les Amazon, via leurs intermédiaires, ou même le marché asiatique. Nous, justement,
la Chine.
Avec Android, on cible la Chine parce qu'en Chine et en Corée, il y a quand même un fort potentiel commercial et donc des gros investissements qui se font.
Une explosion des salles d'ailleurs.
Une explosion des salles, oui. Alors, en Chine plus qu'en Corée. Après, oui. Encore une fois, ils ont besoin de contenu, mais de contenu de qualité. Donc là, comme je disais tout à l'heure, ça prend un peu de temps. Rien que la timeline de The Android, on est quand même un budget estimé qui est au-delà d'1 million €. Donc c'est quand même pas donné, il va falloir le trouver. Enfin, c'est mon travail, certes.
Voilà.
mais voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses cette année. L'année 2017 a été vraiment un tremplin pour la VR. Et maintenant, je suis très enthousiaste et j'espère que ça va se pérenniser et devenir un médium à part entière. Et dans un futur proche, moi, je rêve d'un jour, on dira j'ai été voir tel film, mais on n'aura pas besoin de préciser qu'il est en VR. Comme quand on dit, j'allais voir le dernier Spielberg ou je vais voir The Avengers ou un autre truc, et on n'a pas besoin de préciser que c'est au cinéma. Vous voyez?
C'est ça, par contre, il faut vraiment que les casques ils évoluent bien, parce que pour le moment, il y a aussi la question qui se pose de... Enfin, moi, personnellement, ça ne me dérange pas de rester une demi-heure au casque.
Moi aussi.
Mais visiblement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Mais on a poti, c'est pour ça.
Adrien, mais... clairement, 30 secondes. 30 secondes plus.
Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, je pense aussi qu'on va s'y habiter. Mais c'est aussi une question de lourdeur de casque, tu vois, quand t'es, ouais. Tu vois. Donc, je pense que plus les casques vont s'alléger...
Et tu parlais, par exemple, au niveau des casques, très bien, tu parlais de la 360 stéréoscopique. Aujourd'hui, on n'a pas un seul casque sur le marché qui est capable de diffuser, de présenter correctement une image stéréoscopique.
Ouais, c'est un vrai problème.
Donc, voilà.
J'ai pas entendu Gaël sur le mot de la fin, sur ton avis, sur qu'est-ce que tu penses de cette technologie, comment elle peut évoluer, comment tu vois la suite.
Je trouve que c'est... Je suis désolée, je suis en train de... Ça me vient en anglais, là.
Je t'ai pris de cours. Tu peux essayer, après c'est fait.
It's here to stay. Donc ça va pas se désagréger comme la 3D. Enfin, c'est un format qui a du futur. Et je pense que c'est un fort outil d'empathie, en fait. Et le cinéma, en général, c'est vrai que c'est fait pour partager une expérience et des émotions. Et la VR se prête vraiment super bien à ça. Du coup, je pense que non seulement du point de vue du divertissement, ce sera une réussite, mais je pense que dans le système éducatif, ça deviendra très, très important.
Mathieu, un dernier mot.
Très bien. Moi, je rejoins l'enthousiasme de mes camarades. Faut rappeler aussi que la réalité virtuelle, en tant que technologie, est supportée par des grandes industries qui, depuis des dizaines d'années, travaillent dessus. Donc, tout ce qui est automobile, médical, etc. Donc, on a la chance d'avoir l'évolution du matériel et des technologies qui bénéficient de cet engouement des grandes, grandes entreprises mondiales. Donc, après, à la réalité virtuelle, on va dire artistique de fiction documentaire, de faire son nid. Et c'est vrai que moi, je note. Le point d'évolution majeur, ça va être l'écriture et vraiment de trouver les bonnes idées pour ce support. Et c'est surtout, saluons l'arrivée des salles, on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'arcade VR, qui sont dédiées beaucoup aux jeux vidéo, mais qui seraient un peu, effectivement, la sortie de groupe. On dit entre amis, ce soir, on va aller se faire une demi-heure, une heure de réalité virtuelle, plutôt qu'on va faire une heure et demie de cinéma, mais pourquoi pas, après tout. Et je crois beaucoup plus en la salle de réalité virtuelle à l'extérieur qu'à l'achat par tout un chacun de son casque à la maison, parce que ça coupe un peu socialement, c'est vrai, même si ça restera possible. Et on note aussi que les casques arrivent maintenant de plus en plus sans fil, les budgets se réduisent un peu, la Facebook, le nouvel Oculus serait à peu près $200, quelque chose comme ça. On va quand même arriver à une démocratisation des matériels maintenant, ce qui reste à faire, le plus grand chantier.
Les technos coûtent cher aujourd'hui.
C'est le
cher,
plus grand chantier pour moi, c'est les contenus, et c'est surtout trouver les contenus les plus pertinents, écrire les contenus les plus pertinents pour ce support.
Très bien dit, eh bien, écrivons de la VR, c'est parti.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
Beaucoup.
Merci.
Merci à nos invités et merci à Barbara pour son coup de main. On remercie au passage notre communauté sur Slack qui nous aide à préparer nos sujets, notamment celui-là, en soumettant des questions pour nos invités. Donc merci à Baptiste Rambeau et Sarah Beaulieu en particulier. Salut les gars.
Merci à nos invités pour leur participation à cette discussion très intéressante sur un sujet aussi curieux que passionnant et dont on n'a pas fini d'entendre parler. Merci au Festival Paris Cours de Vent de nous avoir invités à réaliser ce podcast avec eux. Merci Ondine et merci à Antoine Cupial d'avoir provoqué la rencontre.
Si ce hors-série vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à nous laisser des notes et des commentaires sur iTunes et Apple Podcasts. Vous pouvez également nous aider en nous laissant un pourboire sur tipeee.com. Suivez les liens dans la description du podcast.
Rendez-vous dès le 1er décembre pour un podcast qui parlera de l'écriture de courts-métrages enregistrés au Festival européen du film Cours de Brest.
C'était cool et ça va être cool.
Ça va être super cool.
C'est déjà enregistré.
Salut à tous.
Salut.